Bonjour à toutes et à tous, nous voilà de retour après cette trêve hivernale, cette trêve des confiseurs, n'est-ce pas, messieurs?
Oui.
C'est vrai?
Non.
On est tous super bien reposés.
Surtout toi, je crois.
Les confiseurs, ils sont.
J'ai fatigué.
Ah, bon, on a le temps de se reposer dans les transports. Hein.
Ah, bah oui, oui.
En plus, on n'a pas besoin de se tenir à quoi que ce soit, on est soutenu immédiatement
est
par
soutenu,
quelque chose.
Par ta connerie, surtout.
Ouais, aussi.
Eh bien voilà, nous sommes de retour tous, frais et dispo, avec Plume, qui sort des vannes pourries, comme toujours, pour cette nouvelle saison, enfin pas nouvelle saison, mais nouvelle année, pardon,
année calendaire.
De 2020. D'ailleurs, joyeuse
Pâques.
Année
bonne
à
année.
Tous,
ah non, c'est pas ça, merde.
Bonne année, joyeuse année, belle année, à vos familles, vos proches, vous-même, paix et prospérité, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Voilà, paix et prospérité, dans vos foyers.
Bah très bien.
Bah
toi,
voilà. Bah je sais pas, je pensais que t'allais enchaîner.
T'entends, non, Thomas
avec Thomas qui est là aussi bien sûr.
Bonjour les gens.
Fidèle au poste.
Qui a pris
2020.
Des couleurs et qui allait au ski.
Bah, il a été au ski et il a été dans un 12 étoiles.
Il paraît, ouais.
Au frais de la rédac. Mm. Il y a Camille Allard.
Et oui, que j'ai pu venir.
Voilà, qui n'est plus malade. Qui n'est plus malade, mais qui a réussi à venir aujourd'hui incroyablement.
Mais j'ai jamais été malade, moi. C'est la grève, c'est mes trains qui sont malades.
La grève.
Pourtant, tu es blême, mon cher ami.
Bah, je suis pas sorti depuis 3 semaines, donc forcément.
C'est vrai. Ah bah voilà, c'est pour ça. Et donc, Plume.
Que tu l'as déjà introduit.
Je sais, mais
début.
Comment on t'a pas entendu, je sais pas.
Ah, si, j'ai dit oui.
Peut-être que,
cool,
peut-être que t'es fatigué.
Ah, bah, c'est plus que fatigué.
C'est vrai.
Je suis épuisé.
C'est vrai.
Ouais.
Et Poufi.
Qui parle pas, forcément.
Qui parle pas trop, mais qui est là-bas, la technique. Lui qui s'est bien reposé, d'ailleurs. Moitié route.
Le meilleur d'entre nous.
Évidemment. Alors, pour cette premier podcast de l'année 2020, de quoi allons-nous parler, messieurs? Eh ben, de la grève, de la fin du monde.
Des gilets jaunes.
Et on a invité en Australie.
Philippe Martinez.
Des
deux
pas.
On va en parler avec.
Exactement.
Lui.
De la CGT, voilà. CGT, CFU, CK, je sais pas quoi.
CFU.
Une ça. Non, pas du tout, évidemment. Vous l'aurez compris. On va parler les jeux les plus attendus de l'année.
Mais pas que les jeux, du coup.
Mais pas que les jeux. On va aussi parler du hardware, des consoles, du PC et de la fin du monde. Voilà. En thème final.
Ah bon, c'est pas les services en thème
non,
final.
Non, pas du tout.
Ah, je croyais moi.
Évidemment,
les plans ont changé.
Services dans les nuages, comme on dit vaguement.
On le dit vaguement seulement.
Bizarrement, dans les nuages. Le jeu dans le nuage. C'est bizarre comme truc en fait.
Non, c'est ce que disaient les pubs IBM.
J'aimerais bien jouer dans le nuage.
À la fin des années 90.
Qu'en pensez-vous?
L'informatique en nuage, je te rappelle pas.
IBM. Tout à fait. Si, je m'en souviens très bien de cette publicité.
IBM.
Et bien sûr, commencer tout de suite par les jeux qu'on attend le plus en 2020 de toute l'histoire de l'humanité humanoïde.
En l'occurrence, les jeux consoles, on précise bien.
Pas du tout, tu mens.
Et ouais.
Tu sais que les jeux consoles égalent les jeux PC.
Bah ouais,
mais deux fois plus cher.
Ah, PC,
mais deux fois plus cher. C'est toute la différence. Alors, messieurs, qu'est-ce qu'on attend en 2020 qui vont nous faire kiffer, qui vont vous faire kiffer?
Bah, je pense que Cyberpunk, il est bien placé.
Tu mens. Moi, je pense qu'il faut l'enlever celui-là.
On est plus... je pense qu'à la rédac, il y en a pas un qui dit.
C'est vrai qu'il fait l'unanimité.
Enfin, tout le monde va y jouer.
Tu veux dire Cyber Quepon?
Peut-être, il y a peut-être que Romain, qui, je sais pas s'il est très hypé par le truc, mais en tout cas, on est tous à la rédac plus ou moins hypé par.
Ouais, mais il est pas là, donc ça va.
Ouais. Moi, puis,
on va dire que tout le monde.
Il l'a vu aussi à l'E3, un peu après toi, non?
C'est
je
pas
sais
faux,
plus.
Ce n'est pas faux, tout ça.
Il me semblait qu'il avait fait la présentation aussi et qu'il avait été comme tout le monde.
Non, hypé. Je crois que c'est Morgan qui a resquillé pour faire la présentation. Romain, je suis pas sûr qu'il y soit allé.
Ah oui, il avait pas essayé.
Non, parce qu'il a pas
oui,
son.
Oui, c'est vrai que Morgan, quand elle est revenue, elle a dit j'ai pris une sacrée claque.
Morgan a resquillé, je l'ai vu plusieurs fois et à chaque fois c'était démentiel. Et...
Bah, c'est vrai que du coup, on sait que même les gens qui ne sont pas fans de jeux vidéo, qui n'aiment pas spécialement jouer aux jeux vidéo, ont apprécié la démo. Donc c'est quand même un bon signe en général pour un jeu vidéo qu'il puisse être apprécié de tout le monde.
Là, à fond, il n'y a toujours pas joué.
Ouais, ça, oui, c'est vrai.
Et ça fait peur hein, parce qu'il sort dans combien de temps? Ah oui, ça, c'est un truc que vous avez pas mis.
Si, c'est le 16 avril.
Vous êtes surpuissant.
C'est un truc que tu fais souvent, ça veut dire ah, vous avez encore merdé. Non, en fait, c'est pas vrai.
C'est pourquoi? Parce que moi, j'aurais mis du gras ou des couleurs, c'est ça en fait. La différence entre what et what.
Parce que pour lire, t'as besoin de,
si
t'as besoin de dessin et tout.
Non,
tu veux, j'ai des couleurs, j'ai des crayons de couleurs.
Parce que c'est mieux, tu comprends?
Et ouais, je comprends ce que tu veux dire.
Et d'ailleurs, voilà, bah,
et d'ailleurs, je vais t'inscrire immédiatement à Point Vision qui est à côté pour que tu puisses aller
ceci
faire.
Dit, c'est vrai que tu as changé mes lunettes.
Ouais, il y en a un juste à côté du bureau, donc tu peux y aller.
Mais ceci dit, je vois encore très bien. Alors regarde, tu vois, d'ici, je vois. Peut-être que toi, tu vois plus. Regarde, d'ici.
Ah, moi, je vois très bien d'ici.
Non, tu vois pas.
Bah, si, je te prends.
Avec ton écran 5K chez Watt.
Vous vous rappelez l'année dernière quand on avait dit qu'on essaierait de plus s'écarter des sujets dans les podcasts?
Et si, j'en avais rien à
foutre. Vous vous rappelez il y a 10 minutes quand Trace disait il fera pas plus d'une heure celui-là?
Non, parce que je dois me casser très tôt parce que j'ai un train à prendre.
S'il
est toujours là. Non, donc, mais blague,
oui,
blague à part, Cyberpunk,
c'est l'un des jeux les plus attendus.
Si c'est pas le plus attendu de la rédac,
si c'est pas le plus attendu.
Bah, Techniquement.
Oui, mais moi c'est pas mon genre de jeu. Donc
ouais, mais toi, toi, de toute façon,
après c'est magnifique. Hein,
mais toi, t'es vendu à Naughty Dog, c'est une autre affaire.
Exactement.
Mais Cyberpunk, si on prend la globalité de la rédac, si on interroge à peu près tout le monde,
il a peut-être une limité. Mais encore que, c'est pas sûr.
Peut-être.
Non, parce que dans nos plus attendus, il était peut-être dans les 2-3, mais je suis pas sûr qu'il soit premier tout le temps.
Il est pas mal cité.
Je pense en l'occurrence que ça pour nous, pour le public, c'est celui qui fait le plus parler, on va dire, ça reste
en global, peut-être.
Oui, puis avec l'actualité autour de The Witcher, le fait que The Witcher 3 soit rejoué comme un cinglé, qu'on sache que c'est des projets très sont forts.
Après, ils vont faire une série cyberpunk et tout ça.
Que Keanu Reeves est dedans, tout ça, c'est sûr que ça aide beaucoup.
Et bref, t'as 15.
Ouais.
Voilà, donc cyberpunk est une valeur sûre, c'est évident pour 2020.
Moi, je reste méfiant encore pour l'instant.
Oui, tu dis ça, mais tu vas y jouer 24h sur 24.
Qu'est-ce qui m'inquiète ? La pêche des combats.
D'accord.
Je les trouve absolument.
Ce qui t'inquiète, c'est qu'on n'y a pas joué, surtout.
Non, non, mais on l'a. Moi, c'est quand on l'a vu, vraiment, j'ai trouvé que.
Ça manquait de dynamisme.
Ah oui, ça manquait énormément de dynamisme au niveau des combats. Et l'IA me faisait pas du tout.
Kiffer.
J'avais pas du tout confiance en l'IA.
Tu penses que c'est plus beau que vraiment.
Mais après, c'est une version de démonstration. Mmh. Les IA sont pas forcément faites pour être intelligentes, mais plutôt pour aider à ce qui est du spectacle.
Mmh. Du spectacle même.
On l'a vu pour Hands Off pour l'instant, donc effectivement, il faudra attendre de l'avoir manette en main pour voir comment réagit cet
adversaire. On a 4 mois devant nous,
exactement.
3 mois devant nous avant de le voir. Il y aura peut-être une possibilité, à mon avis, de le voir avant. Donc bon.
Alors l'autre jeu qui est ultra attendu, évidemment, c'est Final Fantasy VII Remake.
Oh putain, oui.
Et là, par contre, je pense que ça va tuer la gueule.
Oh là là, mais ça c'est.
Mais vraiment.
Mais ça c'est une évidence quoi.
C'est une évidence de Saint-Guy, ouais.
Ah ouais, et puis là on voit. Bah c'est un bout de l'intro, non ?
On voit une elfe de
Final Fantasy VII Remake.
Ouais, d'ailleurs, on va vous passer toute l'intro là du jeu.
Oui, c'est vrai.
Les 30 premières minutes. Allez, c'est parti, Poufy.
D'ailleurs, on va vous passer aussi tous les spoils qui ont été livrés la semaine dernière par le data mining. Non, mais
c'est un petit peu le problème, ouais.
Bah, tu connais le cadeau de Noël, c'était ça en fait.
Ah, mais c'est désastreux pour Square Enix.
Bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est pas moi qui fais ça. Hein.
Bah,
c'est pas
ma faute, moi j'en sais rien, trouve-les.
C'est la faute de Poufy.
Ah, bah alors Poufy, trouve-les. Parce que c'est pas bien ce qui s'est passé. Donc, ça a l'air.
Bah, FF7 remake, oui. Forcément.
Ça a l'air extraordinaire la façon dont ils ont remaké le truc. On était beaucoup de sceptiques ici à la rédac.
Bah, c'est compliqué de s'attaquer à un chef-d'œuvre et à un jeu aussi réputé. C'est forcément casse-gueule, à la base.
Ah, complètement, ouais. Et pourtant, donc Thomas l'a essayé. Je l'ai essayé aussi. Et c'est vrai qu'au-delà du fait que ça va être un très joli jeu et que, bon, à la limite, la direction artistique peut peut-être un peu être.
Ah non, moi j'aime bien.
Ne pas convenir à tout le monde, à tous les puristes, entre guillemets.
Peut-être, mais moi j'adore.
Mais à côté de ça, c'est la vraie principale inquiétude qu'on pouvait avoir, c'était vraiment le système de combat. De vouloir absolument faire un système de combat moderne pour un jeu comme Final Fantasy VII, qui était le héros de l'Active Time Battle de Squaresoft dans les années 90. Et qu'ils aient réussi à faire, déjà à proposer un Active Time Battle, donc un système tour par tour, comme on pouvait connaître avant, pour que justement tout le monde dans les anciens puisse s'amuser, et qu'en même temps ils aient proposé un système de combat qui lui est dynamique, mais en même temps vous permet d'avoir des pauses pour vraiment prendre le temps de réfléchir et de bien organiser vos attaques, sachant que ces attaques elles-mêmes dépendront de chacun des personnages qui eux-mêmes auront des particularités. Rien que ça,
œuf et chips.
Et vu comment ça se jouait dans les démos qu'on a pu essayer, c'est déjà une réussite de ce côté-là. Rien que pour ça. Et puis après, je vous parle pas des musiques là.
C'est très intelligent parce que ça évite pour moi l'un des écueils des FF15 dont il reprend pas mal de choses,
c'est que
tu gardes la maîtrise de ce que font tous tes coéquipiers. C'est-à-dire, c'est quand même toi le directeur du combat, c'est toi qui impulse les ordres. Tu peux les laisser se débrouiller, mais dès lors que t'as envie d'orienter un peu le truc, t'as quand même la main mise sur tout ce qui va se faire avec ce temps ralenti, et ça c'est quand même super intelligent. On l'a essayé sur le fameux Scorpion Sentinel qui conclut la première démo. Ça marche quand même super bien.
Absolument, ouais.
Après, moi la petite réserve que j'ai par rapport au peu qu'on en a vu, c'est que j'espère que tous les boss ne seront pas justement à l'image de celui qu'on a pu défaire et qui était un peu scripté en fait. C'était vraiment une première phase, ensuite il y avait une petite scène cinématique, on passait à la suite et c'était un peu un espèce de couloir avec différentes phases. J'espère qu'il y aura un petit peu plus de liberté dans les affrontements d'une manière générale.
Bah après celui-là, le scorpion, quand on l'affronte pour la première fois dans FF7, c'est pas non plus le...
Oui, c'est la fin du tuto, donc t'es encore assez guidé.
Exact.
Et voilà. Et puis évidemment, l'enjeu, ça sera de savoir comment est-ce qu'on réussira à être surpris avec un scénario qu'on connaît déjà pourtant sur le bout des doigts. On sait qu'il y a plein de choses de l'univers plus ou moins étendu qui vont être intégrées au scénario de Final Fantasy VII Remake. Donc je pense que tout le monde va quand même découvrir des choses ou être surpris à minima à un moment.
Mais par contre, plusieurs chapitres alors, c'est sûr ça ?
Oui.
Bah oui,
d'accord.
Ça fait longtemps qu'ils le disent, ils savent pas combien encore.
Ils changent d'avis à chaque fois, donc on sait plus.
Non, ils savent juste pas combien ils vont en faire.
Ah d'accord, voilà. C'est ça en fait.
Et le deuxième est déjà en cours de développement. Et il y a même
et en cours de leak, ouais.
Visiblement des leaks
en cours de fuite
qui ont déjà commencé aussi.
Parfait, parfait. Bon bah on va l'attendre évidemment à fond les ballons. Un autre jeu que j'attends personnellement le plus, The Last of Us Part 2.
Oh, oui.
Évidemment. Parce que pour moi, ça va être la révélation ultime. Ou pas.
Bah,
je pense qu'ils vont faire le 3 après sur PS5 et là vous allez tous fermer vos gueules.
Alors franchement c'est pas dit parce que
toi tu y as joué par contre.
Ouais mais c'était déjà pas dit qu'il y en a un deuxième. Fallait vraiment.
Oui oui c'était pas sûr exactement. C'est ce qu'ils avaient dit à l'époque.
Alors,
faut
faire le tri entre la communication et ce que dit vraiment Druckmann. Mais visiblement c'était pas gagné qu'il y ait un deuxième épisode.
Il aime bien quand il y a des vrais scénarios qui se passent des trucs et tout. Il a pas envie de faire un 2 pour faire un 2.
Oui, une suite pour faire une suite. Voilà. Et là pour le coup. Du peu qu'on en a vu, c'est pas une suite opportuniste, c'est pas juste on reprend les personnages et on en fait autre chose. Il y a une
tant qu'il rappelle pas Palpatine au début, tout va bien, je pense.
Tu sais qu'on a pas tout vu encore. Hein.
Ah ouais, on sait jamais.
D'ici à ce que le prochain trailer se conclue par un rire démoniaque.
T'imagines.
Non, il y a un vrai changement d'ambiance.
Avec le début qui fait penser à Red Dead 2.
Il y a toutes ces années qu'on passait en plus qui vont permettre, mine de rien, en termes de narration, de découvrir, de comprendre ce qui s'est passé entre la fin du premier et ce deuxième chapitre. Parce qu'il y a plein de choses qu'on va ignorer, qu'on va découvrir en tant que joueur en parcourant cet univers. Et ouais, du peu que j'ai pu en jouer, c'est d'une intelligence en termes d'écriture et les quelques nouvelles mécaniques de gameplay, ne serait-ce que les chiens qui sont arrivés pour compléter un peu la galerie d'ennemis.
On les voit au début de la vidéo.
Ça change beaucoup de choses au niveau du combat et voilà, ça va a priori être une suite absolument dantesque, intelligente.
Mais c'est ça qui est fou, c'est qu'ils se sont remis en question quand même. Ils ont vraiment remis les choses à plat quelque part au niveau du gameplay, j'ai l'impression, quoi, parce qu'ils ont retravaillé justement la façon de se battre. La façon de d'évoluer, de courir, de marcher, de se planquer, etc.
L'environnement,
ça c'était pas gagné quand même parce que
et déplacer les planches, ça a changé aussi la façon de déplacer les planches ou pas.
Et les échelles.
Et les échelles, ouais.
Écoutez monsieur Loiseau,
mais
de
mauvais
augure,
je
n'ai pas déplacé
non, vrai,
de planche
pas...
oh, dans la vrai. Démo que j'ai pu faire, c'était à deux endroits différents du jeu, je crois ne pas avoir déplacé.
Est-ce que t'as poussé des palettes sur l'eau?
Non plus.
Mais je trouve que c'est un faux procès ça parce que c'est effectivement au début du 1, mais il n'y en a pas tant que ça. Il y en a peut-être 10 ou 12, allez, une douzaine sur
12 heures.
Sur 12 heures, c'est pas énorme.
Non, mais c'est juste déformé parce que vu qu'il en parle tout le temps, on a l'impression que c'est.
Oui, c'est ça.
Non, mais on peut parler d'Eli qui s'est pas. Qui est invisible, quoi, tu vois. On peut parler d'Eli invisible.
Ça, c'est un vrai problème de game design.
Voilà,
je
bon,
suis
là, elle pourra pas, c'est elle l'héroïne, donc forcément, ça va être plus facile.
Regarde Joël, la tête qu'il a.
Ah, Joël.
T'imagines
Joël.
Ouais. J'en veux de Joël.
Ouais.
Bon, non, allez, ça partout, ça va
forcément être. Ouais, moi, c'est un des jeux que j'attends vraiment le plus aussi cette année parce que.
Ok, 29 mai, exactement.
La session qu'on a pu faire, moi, m'a achevé en me disant ok, d'accord, c'est pas une suite, c'est vraiment un nouveau jeu qui a été pensé de A à Z et qui va, je l'espère, tuer la bite.
Et la version remastered sur PS5
évidemment,
dans 2 ans et demi. Voilà. Si tout marche comme prévu. Autre titre ultra attendu, Ghost of Tsushima, pardon, qui sortira cet été. C'est vrai que j'ai du mal à me dire, mais on est en 2020, ouais. Donc oui, cet été.
Bah oui.
Ghost of Tsushima, qui là encore, je me demande si c'est pas un jeu qui pipote ou si ça va vraiment être extraordinaire.
On peut encore se poser la question.
Au départ, on se disait tous qu'il allait sortir sur PS5 et...
Ce qui est quand même magnifique.
Et finalement... Non, c'est bien un jeu PS4.
C'est quand même un jeu qui, sur le plan visuel, en tout cas, pour l'instant, s'avère hyper ambitieux. Mm-hmm. Après, c'est vrai qu'on n'en a pas vu grand-chose en termes de mécanique. Enfin, ça a été beaucoup de scènes un peu chorégraphiées.
Scriptées aussi.
Ouais. Et très scriptées,
oui,
voilà.
Oui, évidemment.
On n'a pas encore eu de phase de gameplay complète où il y aurait un petit peu d'exploration, un petit peu d'action. Enfin, on a vu quelques combats pendant des trailers à l'intérieur d'un temple. Mais il y a encore beaucoup d'inconnus, je trouve, sur Ghost of Tsushima. Moi aussi, j'ai du mal à le dire. On sent bien que la com va arriver justement quand les premières grosses cartouches vont avoir été tirées.
Une fois que The Last of Us 2 et Cyberpunk
FF7, quand les gros jeux de début d'année vont être sortis, j'imagine
ils vont laisser
que,
la place après.
On va avoir beaucoup plus de détails sur le prochain jeu de Sucker Punch, mais que j'attends moi pour la proposition visuelle qui est quand même assez somptueuse.
Ah, quand tu vois les feuilles
qui
virevoltent et tout ça, c'est trop trop beau quoi. Mais je sais pas, c'est presque trop beau pour être vrai, j'en sais rien.
Mais voilà, il y a beaucoup, beaucoup d'inconnus et surtout assez peu de détails sur les mécaniques pour l'instant. Donc il va falloir qu'on surveille ça et qu'on voit si le jeu est à la hauteur de ce qu'il ambitionne de faire.
Exactement, ça a l'air d'être une espèce de Tenchu, un peu avec de l'infiltration.
Il y a un peu Bushido Blade aussi.
Ça a commencé.
C'est pour ça que c'est entre les deux, c'est ça qui est bizarre.
ils ont commencé sur un Tenchu, en fait, exactement. Et puis au bout d'un moment ils sont un peu éloignés de la formule, ouais. Mais c'est vrai que oui, j'espère y trouver ce côté Bushido Blade un peu aussi, avec
des combats, vrais combats entre guillemets,
des combats où la moindre erreur ça peut être la mort quasiment illico, quoi.
C'est ce qu'ils annoncent en tout cas, c'est ce qui dans les promesses, c'est ce qu'ils disent, alors des combats intransigeants, etc.
Oui, le fait que Sekiro ait été nommé jeu de l'année au Game Awards,
oui, du coup,
leur ça... donne peut-être raison à ce niveau-là, parce que
ça donne des ailes, du coup, oui, d'entendre des choses comme ça, parce que.
Exactement. Ah, si tu peux vraiment faire ça, sauter à cheval, là, c'est aussi classe. Surtout avec cette caméra un peu Shadow of the Colossus, là, ça peut être.
Et si tu peux poser comme ça aussi.
Ah, bah ça, je le fais tous les matins.
C'est vrai.
Dans le train.
Tu sors ton lit, tu fais ça.
Non, aux toilettes. Quand j'ai gagné ma partie de Tetris 99, je suis comme ça.
Posé.
Ouais.
Ouais.
Bah, donc, écoute, un peu de méfiance en attendant d'en savoir vraiment plus.
Bah, c'est vrai que personne n'y a joué. Personne n'y a joué.
Non, parce que durant le. Très peu de phase de gameplay pour l'instant.
Tout à fait. Bah, écoute, espérons qu'il ne soit pas repoussé encore à l'année prochaine. On verra. Parce qu'il est censé sortir cet été. Un vague été. Donc, c'est même ça que c'est bizarre, je trouve. Mais bon. Pour un jeu qui est censé être quasi fini, quoi. Parce que même quand on repousse un jeu de 6 mois comme Last of Us 2, il y a une date ferme à la fin, quoi.
Non, mais été, ça peut aussi être la rentrée, tu vois, ça peut être le gros jeu du mois de septembre, ouais, par exemple. Tout à fait.
Nous sommes d'accord, tout à fait. Autre titre qui va faire parler de lui, c'est Doom Eternal, qui sortira le 20 mars.
Ouais. Honnêtement, je pense que c'est un peu le jeu de la dernière chance.
Tu penses que c'est le plus grand jeu de l'histoire ou pas?
Non, c'est surtout le jeu de la dernière chance pour Bethesda qui s'est planté lamentablement sur ses derniers jeux, faut le dire quand même.
Arrête, t'as kiffé.
Fallout 76, ils ont continué à sortir dans le bad buzz, malheureusement pour eux. Hein. Moi, ça m'attriste.
Contre tout.
Ça m'attriste parce que moi, Bethesda, pour moi, ça a toujours été un grand studio et quand je vois ce qui arrive ces dernières années, c'est un peu triste. Donc Fallout 76 qui s'est échoué, les bad buzz autour des mises à jour, l'arrêt de The Elder Scrolls, le jeu de cartes Elder Scrolls qui a coupé court à bout de quelques mois. C'est pas super glorieux et lumineux pour Bethesda.
Oh, le online, Elder Scrolls Online marche assez bien.
Elder Scrolls Online marche bien, mais je parle
il marche toujours bien.
Des jeux qui sortent, ces derniers temps, quoi. Donc Doom, effectivement, voilà, en général, c'est une valeur sûre. Doom, il y a beaucoup de fans qui attendent autour dans ce jeu-là.
Surtout que celui de 2016 est vraiment chouette.
Celui de 2016 est vraiment bon. Et franchement, j'y ai joué lors de la Gamescom. Honnêtement, le jeu est vraiment, vraiment sympathique.
Ouais, mais est-ce qu'il se renouvelle pas suffisamment?
Bah, après, Doom, t'attends pas à ce que le
jeu. Moi, j'adore Doom, mais
quoi,
j'ai l'impression que c'est un peu. Ça tourne un petit peu en rond.
Pour celui-là, personnellement, je suis pas d'accord parce qu'il y a des vraies nouvelles mécaniques.
C'est vrai que t'y as joué, toi aussi.
Il y a tout un système presque de pierre-feuille-ciseaux où, en fait, la manière dont tu vas te débarrasser de tes ennemis. Tu peux pas le faire au hasard, c'est-à-dire qu'il faut que tu penses à quoi tu vas avoir besoin, parce que t'as tout un tas d'items avec lesquels tu dois composer qui te permettent aussi d'effectuer des coups spéciaux ou des trucs comme
d'accord,
ça, et il faut systématiquement que t'aies en tête tes réserves en fait d'items, et ça va déterminer un peu la manière dont tu vas te battre et comment tu vas essayer d'achever tes ennemis.
T'as
vraiment tout un système hyper complémentaire qui fait que c'est tout le temps de la stratégie. Alors que t'es en train de bourriner et d'aller à 100 à l'heure, t'es quand même toujours obligé d'avoir dans un coin de ta tête un œil sur tes réserves. Et moi, j'ai trouvé que ça lui apportait justement un petit truc en plus que Doom 2016 n'avait pas encore. Ils ont vraiment poussé la formule encore un petit peu plus loin.
D'accord.
Après, ça reste un fast FPS, hyper gore, etc. Ouais. Mais les petits ajouts qui sont arrivés depuis le dernier volet, pour moi, changent suffisamment la donne pour qu'ils soient vraiment super intéressants.
D'accord. Bah écoute, on verra, ça y est, pas de soucis, il sortira le 20 mars, donc c'est dans pas très 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 longtemps, n'est-ce pas? Et si on parlait maintenant d'Avengers, qu'est-ce que vous en pensez?
Bah ouais,
est
pour
aussi
Romain,
un jeu attendu.
Mais je crois que je suis seul à y avoir joué sinon.
Ouais. Bah oui, c'est possible, moi j'ai pas joué en tout cas, c'est sûr. Romain, il a joué non?
Non, il l'a vu seulement.
Il l'a vu tourner.
Et c'est celui qui l'attend le plus, je pense.
Oui, forcément.
Bah moi je l'attendais pas mal parce que j'aime beaucoup aussi, alors peut-être je suis peut-être moins fan que Romain, mais l'univers Marvel j'aime beaucoup quand même. Bah de toute façon toi aussi Plumin,
Marvel
aussi.
Tu te rends compte que moi j'ai vu Avengers Endgame il y a pas longtemps.
Ah oui c'est vrai.
Mais c'est pas mal,
t'es un fan alors?
Ouais, franchement,
non,
comme pour Star Wars.
Je suis pas un fan mais c'est plutôt bien fichu.
Il y a pas de patine dedans.
J'étais assez étonné.
Bah là pareil, on va pas se mentir aussi, il y a eu un petit bad buzz lors de l'annonce au niveau des personnages, même si on savait qu'ils pouvaient pas reprendre les acteurs des films. C'est vrai qu'il y avait un petit côté
c'est
vraiment...
pas très très dérangeant ça quand même.
Bah pas dérangeant mais n'empêche que ça a suffi à faire un petit bad buzz chez les fans, donc c'est toujours ça. Après le jeu lui-même, on a pour l'instant on n'a pas vu du gameplay dans les phases un peu plus lointaines, on a vu vraiment le tuto. Moi, je joue au tuto et c'est un peu cette phase-là qui a été montrée et remontrée moult fois.
Et c'est ce qu'il y avait à Paris Games Week, je crois. Hein. C'était ça. C'était
ouais, la même chose, il me semble aussi. Et alors, visuellement, ça tue la gueule. Ouais, c'est très, vraiment très, très beau.
C'est vraiment aussi beau que ce qu'ils montrent là. Hein.
Ouais, ouais, c'est vraiment aussi beau. Et en plus, t'as vraiment le côté hollywoodien où ça explose de partout et tout. Enfin, t'es pas déçu à ce niveau-là au niveau de la mise en scène. Ouais. C'est vraiment génial. Après, au niveau du gameplay, il y a des choses qui sont un peu étrange. Par exemple, on n'a pas la sensation de pouvoir en fait. Hulk est censé être un héros surpuissant, en fait on sent pas sa sensation de puissance et c'est un peu dommage. Il faut voir ce que ça va donner un peu plus loin dans le gameplay, plus loin que le tutoriel, quoi, parce que pour l'instant c'est difficile de jauger, mais voilà, ça reste un jeu qui je pense va plaire à beaucoup de monde. Après, il faut voir vraiment.
Après,
ils veulent toucher
le grand public aussi. Hein,
bah oui,
ce jeu-là.
Clairement, oui.
Ils veulent pas que ce soit, à mon avis, trop technique, trop compliqué, trop chiant.
Ils ont prévu un multi aussi, il faut voir comment ça marche. Enfin, un coop multi, enfin, faut voir aussi. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se laisser tenter par ça, donc faut voir aussi comment ils vont rendre le tout accessible.
Bah, si tu peux utiliser effectivement tous les persos et jouer à 4 en même temps,
c'est ça, ouais.
T'imagines ?
Bah, ils ont annoncé
des trucs
complémentaires, tu sais, où genre t'as un héros qui fait une action et t'as un autre héros qui va servir de cette action là pour en faire une autre. Et ça, c'est ce qu'on attend aussi d'un Avenger, quoi.
Donc comme ça, t'as une vraie complémentarité entre les différents personnages et tout le monde jouera pas forcément.
En tout cas,
c'est
vrai qu'il a l'air vraiment très très beau, quoi.
De toute façon, de mémoire, je pense qu'on peut pas faire ça. Quand on joue en coop, le mode de jeu t'impose en fait un héros chacun et tu peux pas évidemment jouer chacun le même héros, sinon ça serait trop. Ça serait n'importe quoi.
Parfait. Et celui-là, par contre, il sort quand exactement? Je me souviens plus. En mai, non? C'est pas un truc comme ça? On a pas mis la date.
C'est en mai, ouais, il me semble.
Je crois que c'est en mai. C'est fin mai. Je me souviens bien, mais après, je sais plus exactement, mais je crois que c'est mai. Bref, de toute façon, on le suivra de près lui aussi, donc il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas.
Cette nonchalance.
Non, c'est pas avril plutôt, il me semble qu'il sort pas loin de Cyberpunk.
Peut-être avril ou mai, ouais. Bon, c'est dans ces eaux-là en tout cas.
Comme ça, vous gourrez pas.
Tout à fait. Un autre jeu qu'on n'avait pas mis à la base dans la liste.
Le 15 mai.
15 mai, c'est ça, tu vois.
Je viens de m'en rappeler à l'instant. Hein.
C'est vrai?
Ouais, c'est ça, ouais.
Dit-il avec son téléphone en main. Tout ça pour dire que oui, il y a un autre jeu qu'on n'avait pas mis dans la liste préalablement, et ce qui est Hellblade 2.
C'est pas vrai.
Et dont
on l'a pas mis.
Dont Plume nous avait rappelé son existence il y a quelques secondes.
Bah, ça me paraît un peu normal, étant donné la claque que je pense tout le monde a.
Numéro masqué.
A reçu pendant les Game Awards quand ils ont fait la démonstration du jeu, juste après que Phil Spencer ait dit tranquillou, bah tiens, voilà, Xbox Series X.
Exactement.
Je me casse comme ça, merci, salut. Donc, cette vidéo qui est assez impressionnante et qui est sûrement représentative de ce que va être la vraie prochaine génération de consoles, même si on imagine que les jeux, à l'intérieur des jeux, ce sera pas comme ça, mais déjà qu'on ait des cinématiques de cette qualité là, avec un visage modélisé de cette façon, avec des mouvements surtout du visage qui sont reproduits avec une telle fidélité, et puis bon, bah c'est l'ambiance de Hellblade évidemment qui va être dans le jeu de Ninja Theory, et bon, enfin il doit arriver cette année, il est prévu pour sortir sur Xbox Series X et à mon avis aussi sur PC, et il y a des grandes chances que il faille l'attendre très fort, parce que le premier était déjà super bien. Donc là, le 2, alors je sais pas dans quel délire ils vont partir au niveau du scénar, mais ça peut être ça peut être extraordinaire.
Parfait, génial. Bon, bah celui-là on attend, de toute façon c'est évident, comme tous les autres,
pas le choix.
Pour le reste, honnêtement, on va pas y passer 3 heures.
Eh bien si,
parce que là je sens que le podcast va durer 8 heures et
bah, tu veux qu'on les cite là comme ça?
On va les citer, ouais,
et
exactement.
R3 quand même qu'il faut, ouais.
Oh oui, mais on va les citer, c'est pas grave, les gens le reconnaîtront et savent de quoi on parle. Alors, Ori and the Will of Wisps, ça c'est, par contre, ça va être super, je pense.
Oui, oh, bah, c'est bien parti pour,
exactement. Moi, je suis en train de faire la version
Definitive Edition sur, voilà, Switch,
sur Switch,
le premier,
qui est super beau, évidemment. Donc, on attend la suite avec grande impatience, n'est-ce pas? Eh bien, ma foi, avec a priori, Yakuza est un autre jeu qu'on attend énormément en 2020, n'est-ce pas?
Ben oui, il y a
Yakuza
pas que Romain,
comme un dragon.
Pour le coup,
Yakuza, oui, il y a Romain qui l'attend, évidemment.
Yakuza 7 ou Yakuza Like a Dragon qui va quitter
Virgin,
un peu le côté beat 'em all pour se centrer plutôt sur le JRPG, un espèce d'hommage un peu débile au JRPG. Bah, que du coup, j'attends vraiment. J'avais essayé Yakuza 6, j'ai pas réussi à rentrer dedans.
Ouais.
Judgment aussi, parce que beaucoup de combats. Là, des combats au tour par tour avec des grand-mères que t'invoques avec ton smartphone, moi ça me
plaît plus.
Ouais, moi ça me fait kiffer, ça.
C'est vrai?
Ouais.
Par contre, ça a l'air toujours aussi beau et tout. Hein. Ça, c'est un truc à chaque fois qui m'impressionne.
Donc, désolé Romain,
dans les Yakuza.
Tu feras pas le test. Non, je déconne.
Ah, ça, à mon avis.
Je déconne. Détends-toi. C'est bon.
Ça va jouer au Nunchaku.
Pose cette hache.
Parfait, donc effectivement Yakuza 7 qu'on attend et qui lui sort cette année.
Cette voilà. Cette c'est déjà
année,
pas mal.
Cette année au Japon.
Au Japon, ouais. C'est ça. Et ouais. Puis on attendra après la localisation, etc. Mm. Un autre titre très attendu, c'est Nioh 2, très attendu par Johnny One surtout.
On en a pas déjà parlé juste avant?
Je crois que si.
Hein. Il me semble que dans une faille temporelle, il fait qu'on en a parlé juste avant.
C'est les troubles de mémoire.
Ok, bah alors je pensais.
Non, je crois que t'es ton
trou. Bah, ça a l'air super, voilà. Ouais. Mais c'est plus avec le même héros, c'est avec un mec qui est mi-homme, mi-démon. Ça fait un peu.
T'as peur, hein.
Comment ça s'appelle le jeu de Capcom?
Devil May Cry?
Non, l'autre.
Monster Hunter?
Non, au Japon, médiéval. Comment il s'appelle?
Sekiro?
Non!
Ah, le truc avec Jean Reno là?
Oui!
Onimusha?
Ouais, Onimusha, voilà, ça fait un peu plus Onimusha. Onimusha
c'est qu'on allait tous les faire. Je me dis, on peut tenir longtemps comme ça.
Onimusha!
Donc, mais ça a l'air toujours aussi chouette. Hein. Plein de gens qui l'ont essayé en.
Tu vois, ce démon là, il va venir chez Watt cette nuit.
En alpha ou en bêta, ont l'air de le trouver assez. Encore une fois, assez excellent. Mais bon, après, c'est Johnny One que ça intéresse.
Oui, évidemment, lui, il kiffe ce genre de choses. Il va adorer, c'est sûr.
Oh oui.
Après, pêle-mêle, on va pas tous les faire évidemment, sinon on en a pour des siècles. Mm. Il y aura 12 minutes, ça je pense qu'on l'attend tous vraiment.
Oh,
ça
oui.
Va être vraiment très très
alors
sympa.
Alors qu'on a rien vu. Hein.
Oui, bah si.
Ah si, on a vu
bah,
un
truc. On a pas vu 12 minutes déjà.
Démentiel.
D'ailleurs, il paraît que le jeu dure 12 fois 12 minutes.
Ah bon?
Ouais.
Ça fait combien de minutes? 144, voilà.
Exactement.
Bah, je connais ma table de multiplication.
Et c'est un chiffre magique. C'est un chiffre magique, 144.
Ça t'épate, hein?
Non, pas du tout, j'en ai rien à foutre.
C'est vrai?
Regarde là, tu vas flipper quand tu vas voir cette vidéo de 12 minutes. C'est, franchement, moi ça me fait kiffer. Mm. Il paraît que tu retournes dans le temps et tout, et tu retournes chez Watt.
Ah cool.
À un moment donné. Mm. Et franchement, ouais, moi je suis comme Thomas.
Ah, c'est un des jeux que j'attends le plus cette année là, vraiment.
Espérons qu'on soit pas déçus, mais déjà le parti pris et tout, c'est.
La direction artistique est cool.
Ils ont réussi en sympa. Un trailer à poser un truc qui a scotché un petit peu tout le monde. Donc,
de toute façon, ça va être un jeu de plateforme en 2D. Le truc a rien à voir.
Plot twist.
Ça se trouve, il y a Palpatine dedans aussi. Tu vois, c'est vraiment, vraiment la merde.
Exact. Alors après 12 minutes, mais alors ça, par contre, je sais pas du tout quand il sort, tu te souviens?
Ah, c'est 2020
cette
pour l'instant.
2020, ouais.
On n'a pas de précision.
Quand on n'a pas de date, c'est que.
Alors, on l'a pas revu depuis le 3,
c'est
en fait.
C'est la fin des temps.
Et le premier trailer.
D'accord.
Il y en a plein comme ça qu'on n'a pas vu depuis longtemps.
Mm. Way to the Woods, pardon. Chemin vers les bois.
Bah, c'est pour Watt, ça.
Qu'on a vu aussi pendant la conférence Microsoft.
Ça a l'air très bizarre, mais ça a l'air très mignon aussi. Avec un chat géant.
Bah, développé par un jeune développeur qui a fait commencer ça tout seul chez lui. Et, je sais plus, il avait 15 ans, un truc comme ça. Quand il a c'est son premier jeu, et voilà, bah, c'est comme quoi tout arrive.
Ça va être le goose de. Le Untitled Goose Game de 2020.
Mais c'est incroyable de dire que le mec il est tout seul pour faire ça quoi. Enfin...
Ah oui, c'est balèze. Là, je pense pas qu'il ait fait ça tout seul, mais.
Non, parce qu'entre temps.
Que début, oui, mais après, non.
Entre temps, oui, mais le projet.
Entre temps, il
le concept et tout ça, sûrement, ouais, effectivement. T'as vu, comme Bart Simpson, il teste des trucs.
L'esthétique est vraiment
j'aime bien,
somptueuse et le côté. La ville livrée aux animaux, sans humains et tout, c'est apaisant, je trouve.
Bah, c'est ce qui nous attend.
Oui.
Enfin, c'est ce qu'il est.
Sauf que là, on pourra y jouer, alors que dans la vraie vie, on sera tous.
On sera tous dead.
Donc,
voilà.
Bah, en attendant, on
t'as vu,
pourra
pour
faire
les chariots. Après, ils vont se transformer en singe, après en humain. Et ça sera un retour infernal. Donc, Way to the Woods cette année, donc. Ori, on en a déjà parlé, évidemment. Bleeding Edge, qui sortira le 24 mars.
Pourquoi
alors
pas.
Ça, je sais plus du tout ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ça?
Jeu d'action multijoueur de Ninja Theory, avec des héros très différents.
Oui. Très coloré.
Ça a l'air d'être un sacré bordel pour le peu que j'y ai joué.
Tu connais Alita? Bah, c'est ça. Voilà.
Et ça a l'air très sympa. Voilà. Encore une autre occasion pour Ninja Theory peut-être de réussir une bonne année 2020, mais dans un autre registre. Dans le multijoueur.
Tout à fait.
Voilà.
Il y a même du rock'n'roll et tout.
Ah, il y a tout.
Bleeding Edge, donc le 24 mars. Ensuite, évidemment, le très attendu Resident Evil 3.
Oh,
qui sort
oui.
le 3 avril. Bien vu d'ailleurs. Et celui-là, je pense qu'on en a beaucoup beaucoup parlé déjà, mais sur Gameblog. Mais oui, il est extrêmement
beaucoup parlé, mais pas joué encore.
Mais pas joué.
Bah, va falloir s'y
extrêmement
mettre.
Attendu, évidemment. Parce qu'on a affaire quand même à du costaud et du lourd. Et...
Bah, surtout que le 2 est tellement bien refait que
le 3 va être encore mieux refait.
Qu'on imagine mal le 3 se gaufrer, même si. Oui. Quand les développeurs disent celui-là il sera un peu plus action, ça me fait un peu peur, mais
ouais.
Bon.
Après, c'est pas grave, ça.
Si ça peut redorer le blason du 3 qui était, je ne sais pas pourquoi, un espèce de mal-aimé dans la série. Et je...
Bah, parce qu'il est sorti en même temps que Code Veronica.
Et je ne comprends pas.
Ouais, enfin, c'est ça.
Ou un petit peu après Code Veronica.
Les deux ont énormément de qualité. Et le 3, c'est vraiment un épisode fantastique, je trouve, à la base. Donc, si ça peut l'aider à se refaire une petite place dans le cœur des fans ou des gens qui suivent la série de plus ou moins loin,
exactement.
Ce sera déjà ça de prix.
Tout à fait, donc RE3 sortira le 3 avril et tout le monde a hâte de flipper, évidemment. Ensuite, pêle-mêle, il y aura Guilty Gear Strive, oui. Dying Light 2, oh, Psychonauts
oui.
2.
Oh, oui.
Et là, Poufi, tu mets la vidéo que tu veux, peu importe, on s'en fout.
Bah, il y en a un qui sort plus tôt, hein, qu'on a oublié, c'est Dreams. Parce qu'on sait
oui,
que...
Dreams, mais ça a l'air pourri, donc...
C'est pas grave. Bah ok, d'accord. Ok, bah si tu le dis alors. Non, parce qu'il y a beaucoup de monde qui a l'air d'adorer.
Ouais, ils disent ça, mais juste pour faire genre, mais ils vont jamais jouer.
Mais toi, tu vas créer des trucs dessus, je suis
non,
sûr.
Non, je suis nul à ça, moi.
Mais arrête.
Tu préfères pas Psychonauts 12 ?
Bah si, ça, mais ça, bah, c'est voilà. Normal. C'est... Psychonauts, c'est la vie.
C'est trop mignon, Psychonauts 2. Voilà, ça va être un jeu aussi très très attendu pour 2020. Et évidemment, la liste n'est pas exhaustive. Hein. Il y a encore plein de trucs, j'imagine, qui vont popper.
Ouais, on ne sait pas tout.
Qui vont être des surprises, oui, notamment parce que, sur les prochaines machines, etc.
On en reparlera tout à l'heure, mais là, il y a un absent dans tout ce qu'on a listé. Exact. C'est Nintendo pour l'instant.
C'est Nintendo même. Mm. Ou Nintendo, comme dirait l'autre.
Mais à juste titre.
Exactement.
Parce qu'il y a encore pas mal d'inconnus.
Tout à fait. Voilà en gros ce qu'on pouvait dire sur les jeux, mais effectivement on en reparle après sur d'autres thèmes qu'on va aborder. Et d'ailleurs le deuxième thème tout de suite, c'est le hardware, chers amis. Mmh. Bah oui, parce qu'après les jeux forcément, il faut faire tourner les jeux sur des machines. Et justement cette année 2020, eh bien on aura droit à plusieurs machines qui vont débarquer.
Ouais, c'est la bonne question.
Et qui vont faire place.
Bah, qui vont vider notre compte en banque aussi.
Et ouais. Exactement. Ou pas, d'ailleurs. Parce que je pense qu'il y aura une guerre de prix, justement, entre la PS5 et la Xbox Series X ou S. On verra.
Moi, c'est cool. J'aurais déjà payé mon écran, donc tout va bien.
Oui, c'est sûr. Encore 3 mois et c'est bon.
Ouais, exactement.
Alors, justement, si on commençait par la PS5, qui a été annoncée donc, par Sony à la fin de l'année dernière.
Bah ouais, pourquoi pas.
Qui s'appellera donc la PS5. Et la PS5, bah voilà, qu'est-ce qu'on peut en dire ? On a eu quand même pas mal de petites infos dessus. Même si on ne sait pas tout, évidemment.
Ouais, mais il y a pas mal de choses qu'on quand même.
On a vu le kit.
Filtré pour l'instant, on a vu le kit. On a eu pas mal d'infos, mine de rien, sur les manettes. Sur celle qui ne s'appelle pas pour l'instant officiellement la DualShock 5.
Tu mens.
On n'a pas de nom officiel pour la manette de la PS5.
Je pense qu'ils vont l'appeler DualShock 5, t'inquiète pas. Hein.
Après, vu son design, etc.,
t'inquiète pas pour ça.
On peut s'imaginer que ce serait ouais. La cinquième itération de la manette.
Exactement.
Bah, du coup, on commence par la manette. Il y a quand même pas mal de choses. À dire dessus, il y a pas mal de brevets en fait qui sont passés, de croquis qu'on a pu voir. Alors évidemment, Poufi vous montre là les nouvelles gâchettes arrière qui font évidemment écho au supplément hardware qu'on a découvert un peu comme ça, sorti du chapeau de Sony à la fin 2019 pour la DualShock 4. Donc ces deux petites gâchettes qui viennent se clipser derrière, qui seront a priori là embarquées évidemment d'emblée, qui risque sans doute de devenir la norme sur les manettes de prochaine génération. On sait que les modèles Elite chez Microsoft, etc., en sont désormais systématiquement équipés. Ce serait pas très étonnant que ce soit le cas de la DualShock 5. Mais les nouveautés vont bien au-delà des deux gâchettes supplémentaires, voire quatre gâchettes d'ailleurs, qu'on pourra avoir sur la manette. On a pas mal de contenu, enfin en tout cas les premières infos qui ont été distillées par Sony, c'était le côté haptique de la manette, à savoir qu'il y aurait... on va dire une espèce de résistance, une immersion qui sera un peu renforcée en fonction des surfaces, des environnements dans lesquels on va évoluer. Les
gâchettes.
Les exemples qui avaient été pris, c'était la résistance d'une voiture qui dérape sur un terrain sableux ou ce genre de...
Il y avait cette idée de... On ressent aussi les surfaces, les revêtements.
Oui.
Ce qui est un peu bizarre parce que...
Comment tu veux dire ? Tes roues qui accrochent dans du sable ou sur de l'herbe.
Ils peuvent le faire à différents degrés.
Tu peux avoir quelque chose de doux ou d'un peu plus rugueux,
rugueux, etc.
Voilà. Oui, c'est le truc que tu sens dans le volant, remarque, quand tu conduis.
Oui, c'est ça. Voilà. Ouais.
Surtout toi qui fais des gymkhana à peu près tous les week-ends.
Non, pas avec le volant, parce que j'ai pas trop mon truc, mais.
Ah bon?
Ouais, j'aime pas trop les volants.
Tu conduis avec quoi alors? Tes voitures?
Ah, aucune vraie voiture, tu
veux dire? Ouais, bah oui, avec tes... bah évidemment, je parlais de ta vraie voiture. Attends, tu t'imaginais quoi?
Non, ça va, je me suis calmé. Ou pas? Oui, bah c'est sûr que oui, il y a quand même une grosse différence quand tu t'as le ressenti sur le volant ou sur une manette. Différentes surfaces que tu peux avoir quand tu roules normalement, quoi. Mais...
Et je pense surtout, vu que tu as l'image, de toute façon, ton cerveau lit les deux automatiquement.
Exactement.
Même, ouais. si
tu t'attends à.
Voilà, la manette dans la main sans rien, tu vas pas dire ah oui, là c'est du sable, là c'est autre chose. Mais si tu as l'action.
Il a un goût de banane.
Oui, voilà, c'est ça. C'est pas du Beaujolais nouveau. Mais vu que tu auras l'image et qu'il va se passer quelque chose, je pense qu'en termes d'immersion, on peut quand même y gagner. On sait qu'il y a peut-être des capteurs aussi qui vont l'équiper pour. Prendre votre pouls, mesurer des trucs comme le rythme cardiaque ou ce genre de choses.
Ce que voulait faire Nintendo avec son fameux bidule.
Sensor. Non, Sensor Bar, n'importe
si,
quoi.
Si, c'est...
Oui, Vitality
Sensor. C'est ça. Il y avait Sensor
dans
dedans.
Lequel on mettait effectivement son doigt. Qui n'est jamais sorti.
Ubisoft
avait tenté de faire un truc comme ça aussi avec l'Energy.
C'était tentative, machin.
L'année suivante. Et bah là, il y aura peut-être enfin quelque chose, un débouché qui va arriver, même si finalement Ring Fit Adventure c'était un peu
ah bah t'as le truc hein, avec le rayon, le petit truc infrarouge de la
du Joy-Con
gauche, tu mesures ton pouls à chaque fin d'exercice.
Et d'ailleurs sur la manette Sony a aussi déposé des brevets au Japon, non seulement avec plus de boutons pour avoir plus de fonctions etc, mais aussi le fait de rallonger les poignées, je sais pas comment on appelle ça.
Ah, ce sera modulable.
De pouvoir rallonger. Après, c'est qu'un brevet. Hein.
D'accord.
Parce qu'au Japon, ils se disent, ça y est, les Japonais, ils commencent à avoir tous des grandes mains, je sais pas. Donc, peut-être qu'il faut peut-être s'adapter.
C'est pas Microsoft plutôt qui te nazis, quoi.
Mais c'est pas con, n'empêche, de pouvoir mettre un petit truc en plus sur chaque manette pour pouvoir bien tenir le truc. C'est Ou alors, ce sera spécifique à certains jeux.
Ça pourrait la rendre plus ergonomique.
Exactement.
Parce
pour certains
que
jeux.
Les manettes PlayStation ne sont pas les mieux finies, on va dire, à ce niveau-là. Enfin, non. Microsoft est allé bien plus loin, je trouve, en termes d'ergonomie.
Elles sont bien les manettes PS5, mais oui. Les manettes Xbox, a priori, elles tiennent mieux dans les mains.
Sous la main.
Ouais, exactement.
On empêche de faire des petits dosserets derrière, à clipser, pour agrandir, enfin, tu vois.
Ça va devenir l'usine à gaz, les manettes, maintenant, c'est n'importe quoi. Enfin bref, bon, voilà pour la DualShock 5. Mais ouais, il y a encore d'autres aussi, choses, évidemment.
On sait aussi qu'en termes de fonctionnalité, de partage, ça c'est pareil, c'est du brevet, rien ne dit que ça va équiper la PS5 d'emblée, mais on aurait beaucoup de partage de contenu avec pas mal de métadonnées, en fait. C'est-à-dire qu'on pourrait enregistrer un moment très précis d'une séquence, le partager, et ça permettrait en fait à vos potes ou par exemple aux viewers, des gens qui stream ou ce genre de trucs, de rejoindre la partie à un instant hyper précis, avec les mêmes stats, dans les mêmes conditions, etc. Enfin, il y a visiblement une volonté de pouvoir inviter des gens à des moments précis et d'ouvrir un petit peu le jeu finalement, parce que enfin, aujourd'hui quand on rejoint une partie, tu fais pas ça n'importe comment ou tu peux pas décider d'un point précis.
C'est pas une des fonctionnalités que Stadia avait promis aussi, ça?
Si, je crois.
Oui, avec Stadia.
Tu viens quand tu veux, etc.
La conférence où il y a eu Phil Harrison, justement, c'était une des fonctionnalités qui avait été montrée. Multi-écrans, enfin, le fait de pouvoir avoir une même action.
Les streamers qu'on garde, ouais, ça avait été.
Voilà,
ça
c'est ça. Et rejoindre justement le streamer que tu mates pendant sa partie.
Au même moment, exactement.
Là, visiblement, il y a des brevets qui ont été déposés qui vont vraiment dans ce sens-là.
Ok, et si on parlait de la PSVR 2 alors, parce que forcément, on sait qu'on aura une nouvelle version du casque de réalité virtuelle de Sony.
En tout cas, il y a des, encore une fois, c'est des histoires de brevets et de,
oui, mais
et de
trucs qui ont été déposés. Ça va sortir. Là, faut arrêter de faire les
gens. Je fais ce que je veux.
On sait qu'il y aura une PSVR 2, c'est évident.
Bah si tu le sais, bah vas-y, balance les sources.
Évident, et je suis sûr qu'il y aura pas de sans fil. Ça sera un sans fil. Mais non, mais c'est même pas une question de source, c'est une question de logique là.
Non, attends. Donc, t'es sûr qu'il va sortir? Il y aura pas de fil. Allez, troisième prédiction, allez, vas-y.
Troisième prédiction.
Allez, Maxime Gérassi là, allez.
Je pense que le casque sera à 360 degrés. T'imagines?
Ça sera un casque, donc tu verras même derrière toi.
Je vais déposer le brevet tout de suite, personne n'y a pensé.
Et à juste titre. Mais bah, ouais, bon,
Tiens, t'as vu, il est content le mec qui joue là.
Ah oui, c'est vrai. Il a l'air heureux.
Je crois qu'un des seuls trucs qu'on sait pour l'instant, enfin en tout cas qui a été mentionné dans les brevets justement dont parlait Plume, c'est qu'on aurait un système de transparence qui te permettrait, sans enlever le casque, de voir ce qui se passe autour de toi.
Donc réalité mixte, réalité augmentée en même temps.
Exactement. Ne serait-ce que de l'enfiler, démarrer ta console.
Donc de voir 360 degrés.
Mais de pas être immergé immédiatement dans l'action, de pouvoir choisir en gros si tu.
Pour pas être trop coupé du monde.
Voilà,
en fait,
si tu passes à un écran opaque ou quelque chose de transparent.
Avoir trop peur.
Ce qui serait pas bête du tout,
c'est
parce
pas bête,
que. Vous avez des lunettes comme moi, c'est un peu chiant des fois d'enlever le casque juste pour regarder ce qui se passe. C'est le chat qui a renversé un truc, casse-toi, ouais. Tu repars.
Ou bien si tu prends un obstacle, t'as un peu peur de prendre un mur plutôt que de tout enlever, effectivement.
Ça lèverait cette inquiétude qu'ont les gens justement d'être complètement enfermés dans la réalité virtuelle une fois que t'es.
C'est pas con comme truc.
Une fois que t'as chaussé ton casque, donc ouais, ce sera un truc, ce sera un truc intelligent.
Moi, je valide Sony, allez-y, faites-le celui-là. Donc ça, évidemment. Par contre, on imagine que ça sortirait avec la PS5 à la fin de l'année. En même temps, ce qui serait cohérent et logique.
Moi, je pense qu'ils vont d'abord garder le premier pour essayer de maximiser les chances.
Ça fait longtemps déjà quand même.
Ouais, ben ça fait 3
ans. Il est sorti il y a quoi, 3-4 ans déjà.
Ouais, bah oui, mais
c'est beaucoup quand même.
Son cycle, il peut encore être de 2 ou 3 ans.
Regarde les casques HTC et compagnie, Oculus, ils en ont sorti 50. Hein.
Non, et puis le problème, c'est que si tu lances ça en même temps que ta console, pour le mec qui veut tout, l'addition, elle va commencer à être hyper salée.
Bah oui, mais ils vont faire des bundles, t'inquiète.
Ouais, mais je pense que
t'es gâté.
T'as plutôt intérêt à laisser ton parc de consoles s'installer avant de commencer à décocher tes.
Ouais, mais franchement, s'ils sortent
tes accessoires, s'ils sortent
un casque qui fait rêver, plus une PS5 avec des jeux de fou, franchement, mais t'as les hardcore qui vont craquer comme toujours.
Ouais, bon, on a
après,
parlé.
Évidemment, le grand public il va attendre un peu. Mais...
On a parlé du prix tout à l'heure, ça va quand même être un peu le nerf de la guerre d'un côté comme de l'autre. Alors, pour le coup.
Mais on n'en sait rien pour l'instant.
Pour le coup, Sony n'a jamais. Affirmer ou infirmer qu'il y aurait éventuellement plusieurs modèles qui pourraient sortir
ils ont pas dit ça.
Au lancement. Ils ont rien dit.
Non.
Donc,
mais ils ont dit que le
on n'en sait rien.
Le fait d'avoir sorti la PS4 Pro leur donner des idées pour la suite. Après, on n'en sait rien non plus, effectivement.
Oui, dans le sens où ça pourrait être une mise à jour hardware pendant la durée de vie de la machine, mais qui arriverait allez, 3 ans facile après la sortie de la PS5. Moi, je pense que ça va être hyper stratégique quand même de se positionner en termes de tarifs.
En fonction de la concurrence aussi.
Parce que le fait de proposer le PSVR 2 éventuellement avec la console, ça fait pour moi un tout petit peu écho à Kinect qui était sorti avec la Xbox One. Oui, non, mais de loin, tu vois, mais qui a quand même plombé un peu la communication de Microsoft, qui a positionné la machine à $100 au-dessus de sa concurrente directe. Ils l'ont payé après sur toute la génération et finalement.
Oui, parce qu'ils le vendaient avec, mais le PSVR, ils l'ont jamais vendu avec la console.
Ouais, mais en termes de prix, ça peut avoir un impact sur l'addition finale. Enfin,
oui, c'est sûr.
Voilà, il y a un message, il y a un tarif à trouver.
Sauf si effectivement ils vendent ça beaucoup beaucoup moins cher que.
Le fait d'avoir plusieurs machines, ça te permet aussi de dire la PS5 à partir d'eux, ce que a priori pourrait faire Microsoft avec
la Xbox
tout court, visiblement.
Oui, mais il y aura plusieurs séries, on le sait. Ils ont fait avec la S, la machin.
Mais justement, ça va être intéressant de voir. Sony va forcément réagir là-dessus. Ils savent qu'il y a potentiellement plusieurs modèles en face.
Exactement. Donc ils vont s'adapter forcément.
Vers quoi ils se dirigent, ça va être intéressant de voir ça.
Alors justement sur cette PS5, la consommation en veille, apparemment techniquement ça va être vachement mieux qu'avant.
Ça fait partie des chevaux de bataille de chacun des constructeurs d'essayer de
plus polluer la planète,
d'être un peu moins d'être un peu moins énergivore pour se faire bien voir, pour avoir un petit autocollant avec AAA ou A+, qui traîne derrière.
A++.
Mais ça c'est le genre de choses qui finalement va intéresser les gens qui sont vraiment
ça intéressera personne.
Regardant sur leur facture d'électricité à la fin du mois et qui mangent du boulgour ou qu'est-ce que je peux trouver comme connerie pour décrire
qui se préoccupe de l'avenir de la race humaine.
Exactement.
Moi je m'en préoccupe pas du tout, j'en ai rien à foutre. C'est aussi simple que ça. Non mais vraiment
Ah, mais je sais,
le vieux vent pourri.
Je suis d'accord, on peut considérer
de la planète mais alors l'espèce humaine, j'en ai rien à foutre.
Et de laisser le reste de l'espèce animale tranquille.
Exactement. Voilà.
Mais ça peut parler à ces gens-là aussi. Bref.
Ouais, enfin, est-ce que c'est.
Bon, je voulais caricaturer, mais.
Est-ce que c'est une grosse incidence 0,5 watts?
Non, mais c'est bon, t'as marqué un point boulgour, donc ça va.
Ouais, c'est vrai. Mais ça, c'est, en général, c'est Romain qui le cite, celui-là, le boulgour.
Mais comme il est pas là.
Ouais. Par contre, un truc super important.
Oui.
Des chargements plus rapides.
Mais c'est sur ça qu'ils mettent l'accent depuis le tout début. Depuis les premiers frémissements de la PS5, à l'époque où Marc Cerny a commencé à en parler ouvertement dans la presse, et depuis des présentations aussi qui ont été rapportées par la suite, c'est le truc sur lequel Sony appuie depuis le début, c'est vous allez voir avec les SSD qu'on va mettre à l'intérieur et avec le matos qu'il y a à l'intérieur, les chargements, il n'y en aura plus. Regardez, hop, Spider-Man PS4 sur PS5, monsieur. Ce que ça donne. Un truc qui prend 17 secondes de chargement, ça passe à 0,5 ou un peu moins d'une seconde.
C'est trop déjà pour moi.
Pour arriver, c'est-à-dire un loading d'un quartier de New York à un autre. Et ça peut être effectivement très impressionnant dans ce sens-là. Après, ça ne veut pas dire que la console qui sera en face, il n'y aura pas droit non plus. Mais
là, on est d'accord qu'on parle d'un Blu-ray inséré.
D'un jeu qui est installé de toute manière.
Ah oui, qui est installé, c'est ça.
Ouais, parce que de toute manière,
si t'as pas la fibre et les machins, je veux dire, les jeux, ça change
pas. Oui,
mais
les jeux, de toute manière, s'installent au moins partiellement sur les consoles. Et de ce côté-là, d'ailleurs, la PS4 est très performante. Hein. Quand elle vous installe le jeu, ça va super vite.
Oui, oui. Maintenant, il y a les gros jeux, même à monde ouvert. Il y a un gros chargement au début, puis après, effectivement, ça va comme vachement plus vite. Quoi. Et donc, dans la console, c'est quoi, pardon? C'est SSD de Samsung, c'est ça?
Alors, ce serait un NVMe de Samsung.
C'est de la rumeur pour l'instant. Ouais. Samsung a dit qu'il participait à l'architecture d'une console qui sortait en 2020. Bon,
d'accord.
Il se trouve qu'il n'y en a pas 50.
Il n'y en a pas 150.
Le seul bémol sur le coût des chargements, c'est que je crois que Cerny avait refait une déclaration après disant que ça marchera, comme tu l'as présenté, Plume, pour l'architecture des jeux PS4 pour l'instant. C'est-à-dire que les jeux qu'on connaît qui ont un certain temps de chargement seraient quasi immédiats sur PS5. Sauf qu'on sait bien que les jeux PS5 vont demander un peu plus de calcul, les environnements vont être plus riches, plus ouverts, etc. Donc in fine, est-ce qu'on va pas se retrouver avec un espèce d'entre-deux, des chargements plus rapides, mais pas non plus aussi instantanés que ce qui était promis? Faudra voir, ça dépendra aussi de ce que les studios choisiront de mettre en avant au moment du développement.
Avec la vitesse d'écriture et de lecture, de toute manière on gagnera forcément, mais c'est vrai qu'après quand les jeux vont être beaucoup plus... quand il y aura le The Last of Us 2, mais de la PS5, on va dire un jeu de fin de génération, peut-être que ça sera pas aussi simple de pouvoir réussir à tout caser comme on veut et tout bien faire passer de manière indolore et invisible.
Tout à fait. Et donc juste pour finir sur la PS5, hein, parce qu'on va pas y passer notre vie non plus.
Bah au point.
Non, bah écoute, on l'a pas, donc si on l'avait à la limite, mais
okay,
on l'a
d'accord.
pas, donc on sait pas. On propose, enfin j'en sais rien, mais elle aurait une durée de vie de 6 à 7 ans, mais bon, ça c'est toujours pareil, on n'en sait rien du tout. Ouais. C'est des supputations, ça, c'est ça va durer, elle va durer 25 ans. Et...
Mais il y a eu une autre rumeur il y a pas très longtemps.
Oui, mais on s'en fout.
T'es sûr?
Bah ouais.
T'es sûr parce que la rétrocompatibilité ça te branche
si,
pas toi.
Si, mais tout le monde le sait ça. Ça
ah bon?
Pas besoin de le...
Ah d'accord, donc Hip Hop Gamer en fait, tu lui as tout dit.
Ouais.
C'est toi, ça sourit.
Exactement.
Ah bah voilà, c'est ça, je me disais aussi.
Bah vas-y, écoute, t'en parlais. C'est
non, mais en fait, Hip Hop Gamer a balancé ça comme ça la semaine dernière, comme une fleur, en disant oui, j'en suis sûr, j'ai discuté exact. Avec les gens.
Ils m'ont tout dit, ils m'ont tout révélé.
Je suis confiant. Il y aura un moteur spécifique, selon lui, pour les. La rétrocompatibilité des jeux PS1, PS2, PS3, PS4. Bon, PS4, on savait que ça allait être rétrocompatible.
Et PS6.
PS1 à PS3, on n'était pas trop sûr. Lui, il confirme que ce sera le cas et surtout qu'il y aura un moteur qui va remasteriser, voire remixer les jeux.
Ouais, ça me paraît quand même beaucoup.
À savoir que n'importe quel jeu qui rentrera, bah, il y aura des options graphiques comme on a sur les émulateurs pour le jeu.
Lisser les trucs.
Voilà, lisser. C'est en 4K, 160 images par seconde.
Ou la vitesse. Ouais.
Ou en 240, même si tu veux.
En 360.
Pour, voilà. Donc, ce genre de choses, bon.
Alors, écoute, on prend, hein, si c'est vrai, hein, tant mieux.
Si c'est vrai, oui. Après, Hip Hop Gamer est aussi fait connaître pour ne pas avoir dit que des choses justes.
Ouais.
Donc,
ah bah, de toute façon, c'est toujours pareil. Hein, t'es tenté sur 50, il y en a bien une ou deux qui vont tomber bien juste. Hein.
Bah, le casque virtuel à 360 degrés, je suis pas trop sûr pour toi.
Ça va. Ouais. Bah, écoute, mais moi j'en sors qu'une en même temps. Hein. Je dis qu'un truc, hein, donc ouais. Si j'ai tout bon, je peux jouer au loto et
si t'as tout faux.
Si j'ai tout faux, bah j'aurai tout faux, c'est pas grave.
Okay. Mais quelque part, la rétrocompatibilité de la PlayStation, ça ferait écho à celle qui est promise par Microsoft depuis
absolument,
un moment
ouais.
aussi. Parce que là, pour le coup, c'est pas de la rumeur. Ouais. Chez Microsoft,
oui.
Spencer
ça sera
affirme depuis un moment qu'ils font tout pour que toutes les générations de jeux Xbox
fonctionnent sur la nouvelle console.
Sur la nouvelle, la nouvelle console qui, du coup, s'apparaît du coup Xbox pour
tout,
tout regrouper. Eux, c'est pas de la rumeur, c'est affirmé. Donc, ce serait logique quelque part que Sony essaye de. De contre-attaquer, de proposer grosso modo la même chose.
Mais il faudrait pas qu'ils rafistolent des trucs alors qu'ils avaient pas prévu ça justement. Ça, c'est jamais très bon signe quoi. Et bien justement, puisque tu fais le lien avec la Xbox One, enfin avec la prochaine Xbox, pardon, qui sortira elle aussi à la fin de l'année, bah écoutez, voilà, c'est le moment d'en parler quoi. C'est notre deuxième console qui verra le jour cette année.
Avec deux modèles. Un modèle haut de gamme, série X.
En théorie, ouais.
Ouais. Haut de gamme qui coûterait plus cher, qui proposerait
12 teraflops et compagnie.
Ouais, exactement.
C'est la PS5 seulement 9, mais ça, je pense qu'on s'en fout en fait.
Bah, les teraflops, ça, enfin, honnêtement, on le verra peut-être pour PC, mais ça veut plus vraiment dire grand chose.
Moi, je pense que Sony, ils en ont rien à foutre de ces chiffres en fait. Parce que tout le monde se gargarise dessus, mais honnêtement, quand on voit les jeux, je veux dire, les teraflops, les machins, on s'en tape quoi.
Bah, si, ouais, pour quand c'est sorti la PS4 Pro et tout, ça avait son intérêt, mais maintenant, actuellement, ça en a plus vraiment. Mais l'objectif, en tout cas, de Microsoft, c'est de faire de la 4K 60 FPS
bah,
ou 120
cool.
FPS avec ce modèle Series X.
Et c'est le feu en plus.
Et bah, du coup, on peut s'imaginer, évidemment, le prochain Halo en 4K 60 FPS, ça
sera transparent en plus.
Ou tous les jeux qui vont sortir en même temps. Mais évidemment, ils veulent pas oublier un public qui est pas forcément aussi aisé que ça, qui peut se payer une machine, parce que là on parle d'un prix qui pourrait, enfin selon moi, atteindre 599€ aisément. Donc ils veulent sortir un autre modèle, un second modèle un peu plus abordable, qui lui permettrait de faire du 60 FPS
j'ai 1440p selon Jason Schreier, parce que c'est lui qui a reconfirmé l'existence de ce modèle.
Ouais.
Surnommé Lockhart.
Ouais. L'autre, c'est l'Anaconda pour la plus grosse version. Yep.
Qui avait été démenti à un moment donné. Effectivement, ouais. Schreier était revenu à la charge en disant que non, c'est
exactement
toujours dans les cartes.
Thomas.
Ouais. Bah, c'est vrai que c'est pas con de se dire, quand t'as une grosse console qui est vraiment assez chère, tu te doutes bien que la famille qui passe forcément très aisée, ou même un gamin qui veut s'acheter ça avec son argent de poche accumulé sur plusieurs années, il va pas se payer un truc qui coûte des milliers et des cents, donc c'est pas con d'avoir fait ça. Enfin,
t'as une espèce de barrière à $350 pour moi.
C'est ça, oui, voilà.
Tu te situes justement dans la console abordable ou dans le produit déjà
après,
un peu plus quali.
Après, on quand même qui confirme, hein, parce
oui,
que là, on n'y est pas, on n'a même
parce
pas encore vu la
vision et les sources. Ouais, hein.
On n'a même pas encore eu la Series X entre les mains, donc.
Mais là, à savoir les projets qu'ils veulent en se basant sur le hardware actuel, on peut s'imaginer qu'effectivement une série X serait aux alentours de 599€. Enfin, je dis ça évidemment, c'est pas fixe,
non,
mais
c'est
pour moi, c'est ce que je pense en tout cas. Et que, comme tu disais, la version Lockhart, elle serait plus aux alentours de 350. Enfin, c'est en tout cas ce que j'imagine.
Alors, on sait qu'ils l'ont fait. Ils ont fait la One S, ils ont fait la One S All Digital. On voit qu'ils ont multiplié les modèles.
Oui, mais ils l'ont jamais fait au lancement.
Oui, mais
c'est ça la différence.
Dans la tête des gens, maintenant,
la Xbox 360.
Il y avait déjà une autre version.
Il y avait deux versions. Il y avait la version Elite et la version Premium.
Ah oui, oui.
Et une version où tu avais un disque dur, l'autre, t'en avais pas. Ou alors il était tout petit, non, genre 120 mégas.
T'avais une carte mémoire petit, de 256 mégas.
Oui, c'est ça, voilà, c'était Peanuts.
Ou le disque dur de 20 gigas, je crois, à l'époque. Ça. Mais effectivement, c'était ou l'un ou l'autre.
Oui, exact.
Mais après, est-ce que quand ton père ou ta mère.
Et arcade. Non, t'avais trois modèles.
Quand t'es gamin et que ton père, ta mère va au supermarché pour t'acheter à Noël la prochaine console, est-ce qu'ils vont pas s'y perdre à savoir qu'il y a plusieurs consoles qui existent en même temps, qui portent quasiment le même nom avec le nom Xbox? C'est vrai que ça risque de porter à confusion sur le grand public, quoi.
Enfin, non, si tu sais qu'elle lit tous les jeux.
Si tu sais que la version.
Bon, le gamin il sait ça, t'inquiète.
La version la plus haut de gamme, ce sera vers les hardcore qu'elle va se diriger. Si t'arrives à bien marketer le fait que celle qui est moyen ou bas de gamme. Elle est plutôt destinée justement à ceux qui ont des économies à balancer ou à des gens qui n'ont pas de pouvoir d'achat. Si t'arrives à bien l'orienter, c'est pas un souci. Moi, j'ai mon souvenir pour la Xbox 360, ça avait très bien commencé. Et pourtant, il y avait, dans mon souvenir, il y en avait trois. Il y avait l'arcade
et Premium.
Il me semble que c'est Arcam, Premium et Elite.
Donc il y aurait eu un disque de 20, un disque de 60 et les celles avec la carte mémoire. Alors peut-être, mais moi il me semble que l'arcade est sorti un petit peu plus tard. C'était le core. Il y a eu la premium, la core.
C'est core.
Et plus tard, ils ont sorti l'arcade avec un nouveau packaging, etc.
De mémoire, l'arcade est sorti après.
Ok, alors je trouve que c'était core. Quoi je pensais.
Mais c'est juste que core, tu dis, ils ont quand même sorti deux modèles au lancement et ça a pas été.
Après c'était l'histoire de disque dur. Il y avait pas d'histoire de puissance.
Ça a pas été un problème dans la tête des gens. C'est-à-dire que c'était grosso modo la même console qui de toute façon, lisez les jeux 360, tu choisis celle que tu veux en fonction de ton tarif et après, roule ma poule, quoi. Donc là, s'ils arrivent à véhiculer le même message en disant malgré toutes ces déclinaisons, c'est une même famille, elles vont toutes lire les mêmes jeux, à partir de ce moment-là.
À part retirer au-delà.
Non, mais voilà, ils l'ont fait, maintenant les gens savent qu'il y a une famille de consoles.
Exactement.
Et que tu fais ton choix parmi celles-là.
Tout à fait. Et justement, la VR sur Xbox, parce que.
Microsoft
ne veut pas en entendre parler.
Ça a fait un bad buzz que Phil Spencer a dit que personne ne demande de la VR.
Alors que c'est en train d'exploser un peu partout quand même.
Sur la console de Microsoft, donc effectivement, ça a fait un petit bad buzz. D'ailleurs, je suis pas sûr qu'il soit revenu sur cette déclaration, il est vraiment resté sur ses acquis. Et c'est difficile à comprendre en fait une déclaration comme ça. De la part d'un pont de Microsoft.
Est-ce que c'est si stratégique que ça, la VR?
Est-ce que pour l'instant,
C'est pas une condition sine qua non avoir une console, c'est sûr. Enfin, pour acheter une console. C'est surtout, c'est vraiment un plus que tu mets, que t'as à côté.
On va dire que l'expérience Kinect a dû leur faire mal quand même. Hein, dire que.
Mais pourtant, ils en ont vendu beaucoup.
Ouais, mais un accessoire.
Oui.
Ça n'a pas été très utile, c'est ça le problème aussi.
20 millions pour le premier modèle. Ouais. Un accessoire en plus d'une console. Moi je le comprends d'un côté.
Oui, en bundle,
pour ça
dire, oui,
en plus
compliqué.
Le fait que la réalité virtuelle, bien qu'elle fasse du chiffre, parce que c'est vrai avec Oculus Quest, en plus cette année ça a été une explosion en termes de chiffre d'affaires. Et le fait que Half-Life Alyx sorte cette année et que ça va vraiment bien
aussi,
et que ça va sûrement contribuer à en vendre encore d'autres.
Et
parce
puis
que quoi qu'on le dise
studios aussi qui se mettent dessus,
parce que quoi qu'on le dise, Half-Life ça peut faire vendre. Et moi je comprends la timidité de Spencer qui refuse rien,
qui attend de voir comment
ça
se
passe. Qui préfère voir, et il a parfaitement raison. Et c'est vrai qu'il y a eu des brevets qui ont été déposés par Microsoft ces dernières années qui laissaient entendre que la nouvelle génération de Xbox allait probablement se plonger dedans. Et d'ailleurs, Spencer en parlait il y a quelques années. Hein. Il le regrette d'ailleurs dans l'interview qu'il a accordé à Steve Ivor. Il dit oui, c'est vrai qu'il y a quelques années j'étais un gros supporter de la VR, il montait sur scène pour montrer ça, pour en parler, mais il a le droit de dire que pour l'instant c'est pas du tout son cœur de cible et que il vaut mieux se concentrer sur les jeux que les 15 studios internes vont préparer, plus tous ceux des éditeurs tiers pour les accueillir comme il faut sur une machine qui arrive en fin d'année. Et qui a l'air plutôt sympa.
Plus tout le programme ID at Xbox aussi, qui est quand même assez conséquent chez Microsoft.
Et puis tous les studios qu'ils ont rachetés, etc.
Puis il y a quand même des brevets sur la VR chez Microsoft aussi qui sont apparus, donc on peut se douter qu'ils réfléchissent de tout dans les cas à quelque chose.
Oui, alors ça avait l'air d'être plutôt un dispositif de. Enfin, comme un tapis, enfin, ça se rapprocherait presque un peu de Kinect. Il n'y avait pas forcément de casque matérialisé sur les brevets.
Il y a juste une caméra espion
on pourrait plutôt s'imaginer un truc comme ça.
Un truc Alexa,
La phrase de Spencer est pas forcément bien heureuse, mais quelque part, est-ce que la VR c'est encore un élément stratégique à ce point-là? Pas sûr.
Ou est-ce qu'il faut pas attendre un petit peu et puis.
Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que eux, ils veulent vraiment se mettre au niveau de Sony, parce que comme le disait Phil Spencer, je crois que c'est lui, je sais plus. Si c'est lui. Il a dit oui, nous étions pas très bien la génération précédente en termes de prix de lancement et de puissance. Et là, ils veulent vraiment être sur ces deux créneaux-là. Donc à mon avis, ils vont être super agressifs, si bien en termes de puissance que de prix. Donc
voilà. Là, espérons pour eux.
Ça sert à
notre
ça
but est de rencontrer le succès sur le marché. Donc je pense que là, ils se disent que voilà, aux États-Unis, on fait jeu égal avec Sony, avec la PS4. Et là, on veut vraiment les battre sur tous les marchés et être très très concurrentiel. Donc
ils ont les ingénieurs.
Parce que c'est l'année ou jamais.
Ils ont les ingénieurs pour, ils ont les développeurs pour.
Et puis eux, ils peuvent peut-être plus se permettre de faire un prêt agressif par rapport à Sony. Hein.
Aussi, peut-être.
Parce qu'ils ont beaucoup plus de branches que Sony. Sony, maintenant, le jeu vidéo est quand même très très dépendant. Sony Corp est très très dépendant de la branche PlayStation. Hein.
Bah,
c'est Apple qui l'a sauvé. Ouais. Alors que chez Microsoft.
Oui, mais d'un côté comme de l'autre. Bon,
évidemment, il va pas perdre du fric.
Ils marchent pas sur leur console de toute façon. Donc
oui, mais personne ne marche jamais sur leur console sauf Nintendo.
Si, Nintendo.
Oui, mais il n'y a que. Voilà, c'est tout. C'est les seuls.
Ils pourraient fonder un parti politique. Hein.
Politique,
en marge, ouais. Mais bon, ça c'est une autre histoire.
Ok, j'attendais la
chute. Ok, d'accord.
Moi je suis désolé.
Mais sinon, la Switch dans tout ça. Parce que c'est bien beau de parler de la PS5 et de la Xbox Series Z, X, W.
Bah ouais.
Mais la Switch.
Bah,
ok, ils ont sorti la Switch Lite.
Comme à peu près l'année dernière et l'année d'avant, à la même époque.
On va dire, ils vont sortir une nouvelle Switch hardcore.
On se dit surtout, mais.
Ils ont pas besoin.
Y a pas beaucoup de jeux là qui sont prévus pour les mois prochains.
Mais arrête, t'es un pipoteur.
Bah non, pas trop, non. Parce qu'à part Animal Crossing, dont on est sûr.
Eh bah, tu vas l'acheter, toi, je suis sûr. Sale fourbe.
J'ai horreur de ça.
T'adores Animal Crossing,
je sais pas si t'as vu. Je déteste Animal Crossing.
Ah bon
Tom Nook me donne des boutons.
Non, je crois que c'est Romain qui aime bien Animal Crossing.
Oui. Bah ouais. Il va jouer avec ses gamins, regarde. Nook Inc. présente.
Bah voilà, Tom Nook.
Les informations qu'on a eues tout à l'heure, enfin qui sont tombées il y a quelques heures de la part d'Emily Rogers, donc une insider plutôt bien informée.
Roger Emily.
Qui laisse entendre qu'il y aurait deux portages Wii U supplémentaires qui arriveraient, rappelait que pour Nintendo, le premier trimestre 2020, c'est Animal Crossing et rien d'autre. C'est leur gros jeu, le marketing va tourner autour de ça, ça va être la sortie, grosso modo, pour le mois de janvier, février, mars, enfin, tout va tourner autour de ça. Le problème, c'est qu'après, comme tu l'as dit, on joue à quoi ? On sait qu'il y a des titres qui arrivent, mais... Bon, on sait que Fils Aimé avait déjà expliqué que maintenant ils étaient dans cette stratégie de communiquer assez tard sur les dates de sortie ou même des jeux qui n'avaient pas encore été annoncés. On peut se douter qu'il va y avoir un Nintendo Direct ou un truc comme ça qui va quand même nous renseigner un petit peu sur où on va en 2020. Mais pour l'instant, c'est vrai que en termes de sortie, c'est un peu timide.
Et en remettant un petit peu de Breath of the Wild 2, histoire de nous... conforté dans l'idée de garder sa suite et de pas la vendre.
Il pourrait peut-être bien sortir à la fin de l'année pour.
Moi, je pense qu'ils vont essayer. Hein. Enfin, ça serait bien vu de leur part.
Pour contrecarrer une certaine PS5 et Xbox, ce serait quand même de bon augure.
Et il y a quelques analystes, enfin un analyste en tout cas qui Serkan Toto. C'est qui Serkan Toto vraiment? Il s'appelle comme ça?
Oui.
Ah ouais.
De chez Content Games, qui parle lui d'une Switch Pro cette année. Donc peut-être éventuellement pour contrer
Bah ça c'est une rumeur qu'il y a eu depuis longtemps la Switch Pro
pour contrer la PS5. Et est-ce qu'il sortirait cette année, console avec Breath of the Wild 2 aussi en même temps en bundle?
Je suis pas super
histoire
convaincu.
De dire regardez, c'est mille fois mieux que le premier Breath
et
of the
plus,
Wild.
Et en plus ils ont quand même, ils traînent un truc comme un boulet, le Joy-Con Drift.
Ouais.
Tant qu'ils n'ont pas réussi à complètement se débarrasser de ce problème hardware,
c'est vrai que c'est revenu,
c'est même pas la peine de parler d'une nouvelle console en fait, parce que ça va leur revenir dans la tronche en
sauf
moins de deux.
S'ils l'améliorent complètement,
oui,
et qu'ils font un échange standard avec la Switch d'avant.
Il faudra qu'ils montent patte blanche, parce que même avec la Switch Lite, on a bien vu que c'était un problème qui était récurrent, même s'ils ont essayé de faire des modifications.
Ouais.
Donc avant de penser à une Switch Pro, une Switch 4K, enfin l'appeler comme vous voulez. Qui en plus aurait pas forcément de raison d'être en soi. Enfin, qui va développer.
Après la Switch Lite, ouais, c'est vrai que c'est compliqué de refaire un autre concept alors que la Switch suffit elle-même a priori.
Je suis assez dubitatif là-dessus, notamment pour ces raisons techniques. Enfin, ils ont vraiment des trucs à corriger déjà sur la Switch de base.
Oui, puis elle se vend super bien. Ça marche
très
bien.
Les jeux marchent toujours très bien, ils sont toujours dans les tops.
Elle va avoir 3 ans là
en mars.
Qu'est-ce qu'elle a comme enfin en dehors de ces problèmes hardware qu'on vient de citer.
Oh, c'est tout.
C'est quoi les vrais soucis?
Non, c'est vrai qu'il
y a
beaucoup de jeux, il y a beaucoup de jeux indés. Quand tu vas sur l'eShop, franchement, il y a de quoi faire honnêtement.
Mais oui, non, mais regarde
les listes infinies de
Luigi's Mansion, Link's Awakening l'année dernière, ils sont vendus mais super bien. C'est enfin tu regardes les charts à chaque fois, il y a toujours un Mario Kart qui traîne, t'as toujours un jeu Nintendo qui traîne. Animal Crossing va arriver, ça va marcher. Il y a eu un
après,
mini truc sur Pokémon où lui il a l'air de il se vend bien, mais
il a quand même cartonné, donc bon.
Mais il a l'air d'accuser un peu le coup, pas en termes de vente mais en termes d'image, notamment parce qu'il il a pas beaucoup renouvelé la licence, voire pas du tout, et que il y a eu cette histoire de ils ont menti, mais ça c'est une autre histoire encore.
Non, mais il y a eu une vraie déception effectivement de la part des fans.
Mais ça n'a pas empêché le jeu de se vendre par cargos entiers, notamment aux États-Unis.
Absolument pas. Donc je vois pas.
Il y a quand même deux jeux qu'on peut citer qui vont arriver, donc Animal Crossing. Hein, Breath of the Wild 2, ça on n'en sait rien.
Alors, avant ça, il y a Tokyo Mirage Session encore qui arrive en tout début d'année. Alors, qui est un portage Wii U remixé, remasterisé avec quelques tout petits bonus en plus, mais qui viendra occuper le début d'année. Il y a quand même un peu de com autour de ça. Enfin, t'as l'impression qu'ils essayent. Je pense qu'ils ont bien vu que Persona a cartonné. Du coup, le crossover entre Fire Emblem et Shin Megami Tensei, il y a peut-être moyen d'en faire quelque chose.
Mais du coup, il y a Persona 5. C'est Scramble.
Non, Scramble, on croit comprendre qu'il y a un nouveau nom qui a été déposé par Atlus.
Et chez nous en Europe,
pour,
ce sera quoi,
qui serait justement la version occidentalisée de Persona 5 Scramble de Phantom Strikers dans sa version japonaise, qui pourrait donc a priori sortir peut-être chez nous, mais on rappelle quand même que chez Atlus, les sorties entre le Japon et l'Occident, c'est plusieurs mois, pour pas dire un peu plus la plupart du temps. Donc,
Royal, c'est quoi,
Royal, il arrive en mars, il est sorti en octobre au Japon.
31 octobre au Japon, absolument. Voilà, donc,
Si Persona 5 Scramble devait sortir chez nous sur Switch et sur PS4, si je dis pas de bêtises, à mon avis, ce serait plutôt au 3e ou 4e trimestre.
Mais ce serait un jeu intéressant aussi, même si c'est du mousseau et qu'on va peut-être pas forcément trouver notre bonheur.
On peut annoncer aussi Bravely Default, No More Heroes 3, Tokyo Mirage Session, donc ça tu viens de dire, Xenoblade Chronicles Definitive Edition, Bayonetta 3, ça on n'en sait rien.
Bah non.
À voir.
C'est pareil que ça se porte bien le développement, mais.
Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu.
Voilà. Et donc les deux portages dont tu parlais, Wii U là, mais là-dessus, selon l'insider.
Alors c'est intéressant parce qu'elle dit justement, ces deux jeux qui sont pas justement sortis encore sur Switch, et derrière elle complète en disant, ça va pas être très compliqué de deviner lesquels c'est, il y en a plus beaucoup. Sauf qu'en fait, il y en a quand même encore quelques-uns.
Enfin, des jeux Nintendo, elle parle de jeux Nintendo quand
Nintendo,
elle dit ça.
Nintendo sur Wii U qui n'ont pas été encore portés sur Switch.
Attends, tu disais Super Mario.
Paper Mario Color Slash qui pourrait être porté parce qu'il n'y a pas de mécanique particulière qui. Je veux dire, tu peux passer d'un écran à l'autre.
Star Fox Zero.
Et le 3D World, tu parles aussi.
Star Fox Zero, voilà, c'est typiquement celui que je ne vois pas porté du tout. Ah. Non seulement parce qu'il n'est pas intéressant, mais parce qu'en plus, il est définitivement pensé pour la Wii U.
Ah, moi, j'avais imaginé Wonderful 101, mais c'est pas un jeu Nintendo.
C'est pas un jeu Nintendo, mais ce serait une excellente idée. Mais...
Moi, je suis Sonic Adventure, et quand il sortira, je m'achèterai enfin la Switch. Voilà. Parce que j'ai adoré à l'époque sur GameCube.
Non, mais c'est un jeu Dreamcast.
D'accord.
Ouais. Ouais, mais bon, ils sont sortis sur GameCube aussi à l'époque. Parce que j'ai joué moi sur GameCube.
Oui, mais là, c'est des jeux Wii U dont on parle. Hein.
Ouais, ouais.
Ça éloigne un peu de la conversation.
Oui, bah écoute.
La conversation, n'est-ce pas ?
J'ai envie de placer Sonic Adventure, donc je l'ai
placé. Bon, bah de toute façon, pour la suite, on verra. Hein. Pour l'instant, ça reste un petit peu opaque, mais effectivement, on attend un état de direct. Sans doute prochainement parce que
ça se trouve il a été annoncé au moment où on est en train d'enregistrer, donc
l'année dernière ils ont,
ce ne serait pas la première fois.
Ouais, c'est à peu près ça.
Il a joué actuellement là.
allez
on va passer au thème numéro 3, le PC, n'est-ce pas.
J'allais dire, sinon on annonce avant le 15 janvier.
Ah ouais, bah écoute,
le direct avant 15 janvier.
Et si on parlait du PC plutôt, parce que le PC, mine de rien,
bah oui,
voilà,
bah,
quoi.
Hein, en fait, chaque nouvelle génération de console qui sort, évidemment, on
quid du PC en 2020. Les gros le PC avance de deux cases à chaque fois.
Non, bah ouais, c'est un peu ça. Généralement, Nvidia souhaite ou AMD souhaite sortir une nouvelle génération de cartes graphiques, et visiblement, ce ne sera pas le cas cette année, puisque la génération Turing, donc la génération de cartes graphiques actuelle chez Nvidia, compte bien rester là encore un certain temps, à tel point que donc le PDG d'Nvidia actuellement, Monsieur Wong, a annoncé que la RTX 2080 était déjà plus puissante que la PlayStation 5 et la Xbox Series X.
Au pipoteur.
Et qu'en plus,
il a parfaitement raison.
C'est vrai. Regarde, Turing, Nvidia.
Et qu'en plus, ils ont sorti Nvidia récemment les versions super de leur carte graphique classique, qui sont des versions avec déjà 20% supplémentaires de puissance. Donc on peut imaginer que déjà que les versions la 2080 super est déjà 20%
au niveau des cartes graphiques, tu veux dire.
Ouais, au niveau des graphiques, déjà entre 20 et 30% plus puissante que la PS5 ou la Xbox Series X. Donc en tout cas, le PC a pas besoin de s'effrayer sur les sorties consoles. Au contraire, ça sera une bonne occasion d'avoir aussi des jeux.
Ça n'a jamais été le cas.
Mais voilà. Donc du côté de Nvidia, voilà ce qu'il fallait savoir. Donc pas vraiment de grosses nouveautés. Ils restent sur leurs acquis. Ils comptent vendre les cartes super sont censées remplacer les cartes classiques.
Je suis vraiment atterré par le nombre de cartes qui sortent à chaque fois.
Bah ouais, ouais.
Enfin chaque mois, il y en a combien? Il y en a deux ou trois.
Non, c'est juste qu'en fait,
je trouve ça hallucinant. Ça dure depuis 30 ans, quoi.
Ouais, ouais. Mais en fait,
je te jure,
c'est qu'ils sortent chaque fois quatre modèles en fait. Ils sortent modèle 60 pour entrée de gamme, 70 pour milieu de gamme, 80 pour haut de gamme et 80X pour le très haut de gamme.
D'accord, ok.
En gros, c'est ça. À chaque fois, ils font ça. Et là, ils ont fait pareil mais avec la classe Super. En fait, Super, c'est juste 20% supplémentaire de puissance par rapport à la version d'avant. Donc voilà, pas de nouvelle génération là-dessus. AMD, eux, on attend de pied ferme l'architecture Zen 3 qui est censée être présentée lors du CES 2020 qui tient actuellement cours et qui n'a pas commencé d'ailleurs. Enfin,
pas officiellement.
Il aura commencé la diffusion de ce podcast, mais là, actuellement, on enregistre, il n'a pas commencé. Et de toute façon, AMD sur le marché de la console, puisqu'ils fournissent du GPU
tout le monde.
Pour la PS5 et pour la Xbox. La nouvelle Xbox Series X. Il y a que la Nintendo qui tourne sur du GPU sur des GPU Nvidia. Chez Intel, parce que le processeur, évidemment, le jeu gaming, le processeur, c'est toujours une grosse part du jeu vidéo. Il y a la 10e génération qui est censée sortir, appelée Comet Lake, qui doit arriver en 2020. Alors encore une fois, ça fait des années qu'il y a des rumeurs.
Ah ouais, ça fait des années qu'elle doit sortir.
Ça fait des années qu'ils parlent de la génération 10, la 10e génération qui est censée sortir. Et
parce que la 9e, elle a commencé quand?
C'était il y a 3 ans maintenant, un truc comme ça, 2 ans.
C'était quoi comme processeur?
Coffee Lake, non?
Ouais. Coffee Lake, en fait c'était une gravure en 14 nm, mais là c'est sur le même type de gravure, et donc on a évidemment tous les fans de hardware attendent impatiemment de pouvoir changer les processeurs, puisque évidemment une carte graphique fonctionne grâce à un bon, enfin plus la carte graphique est puissante, plus le processeur, il faut un processeur puissant pour en profiter
et rapide
de sa config, exactement. Ce qu'on attend en 2020, c'est toujours évidemment aussi la purement technique mais aussi hardware, le RTX, puisque le RTX va arriver à peu près partout.
Ça y est, maintenant il s'est complètement établi.
À tel point que maintenant les prochaines consoles, ils l'ont annoncé, donc ça sera parti aussi des jeux. On a eu récemment Minecraft qui.
Minecraft RTX, c'est vrai que c'est.
Ouais,
c'est un autre jeu quand même.
Je vous conseille d'aller voir mon article que j'ai fait juste avant Noël, où vraiment on voit, j'ai pu jouer au jeu et honnêtement c'est vraiment une grosse claque. Le jeu version RTX est sorti en premier trimestre 2020, selon Microsoft.
Oui, c'est ça, c'est ce qu'il disait.
Et donc du coup, vraiment un gros lifting pour Minecraft. Évidemment, le RTX va arriver sur les gros jeux tels que Cyberpunk 2077.
Ouais. Là par contre, on verra certainement une grosse différence.
Ouais, sur aussi. Mais j'ai oublié le nom du jeu d'Ubisoft. Le jeu Ubisoft qui va sortir. Comment?
Watch Dogs 2,
évidemment, qui est le RTX de quoi?
Watch Dogs Legion.
Exactement.
Watch Dogs Legion.
Qui est censé aussi sortir dessus. Enfin, en gros, tous les AAA, il va falloir s'attendre à ce que le RTX soit présent, puisque c'est réclamé. Et puis, de toute façon, de plus en plus d'utilisateurs troquent leur ancienne carte graphique par des générations RTX. Et la génération RTX est faite pour faire tourner ce fameux ray tracing. Donc, évidemment, les développeurs sont poussés par Nvidia et poussés en général pour le faire, puisque ça apporte une grosse plus-value visuelle. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire vraiment sur le hardware pur et dur. Ça va pas être une grosse année de nouveautés. Je pense qu'il va falloir attendre que la génération de console soit bien installée pour que les constructeurs tels qu'AMD et Nvidia puissent annoncer des nouvelles générations de cartes graphiques.
Mais pareil, le nerf de la guerre, ça sera toujours les jeux aussi, de toute façon.
Ça sera aussi les jeux.
Alors, la puissance, c'est bien, mais.
Il y a toujours l'Arlésienne depuis maintenant 6 ans, Star Citizen, qui ma foi avance plutôt bien, puisque le développement est quand même on a accès à des grosses démos, enfin une early access démo qui est quand même assez impressionnante. Donc on voit vraiment le travail évoluer, on peut pas dire le contraire. La version Squadron 42 qui est le penchant solo est censé sortir, enfin
Il est censé sortir
en 2020, enfin d'après les rumeurs en 2020, et même s'ils n'ont pas donné toujours de date de sortie précise, mais tout porte à croire qu'il sortira en 2020, puisqu'ils ont sorti encore un trailer juste avant Noël aussi, non pour le jour de l'an ou pour Noël, le 25 décembre exactement, ils ont sorti un nouveau trailer pour Squadron 42 qui est ma foi très impressionnant, toujours avec cette avalanche de guest stars, Mark Hamill, enfin vraiment
Gillian Anderson,
exactement, il y a 5 ou 6 acteurs hollywoodiens qui sont dedans, ils ont vraiment fait péter le budget dessus, donc voilà, ça c'est attendu au tournant. Il y aura toujours les détracteurs qui vont dire ça va jamais sortir machin, et ceux qui sont pour parce qu'ils ont mis aussi aussi des pépettes dedans. J'en fais partie, hein, j'ai mis en 2014. J'ai plus 60 euros.
2014.
60 euros dedans. Non, de, ouais, 2014, c'est ça.
Putain, c'est comme fou. Hein.
Non, mais avec l'inflation, il est gagnant.
C'est ça, c'est ce que je me dis pour me rassurer, tu vois. Il y a des, alors, toujours des les gros studios tels que Paradox Interactive qui ont annoncé Crusader Kings 3. Donc Crusader Kings 2 était l'un des jeux les plus vendus sur PC ces dernières années. Il est sorti en 2012 et il a cessé de faire monter ses chiffres, son chiffre de vente de 2012 jusqu'à 2019. Il est toujours très très souvent dans les top ventes Steam. Donc évidemment, un épisode 3, bah, tout le monde l'attend. Enfin, tout le monde, je veux dire, les joueurs PC en tout cas, la plupart des joueurs PC. Il y a eu 50 développements dessus, donc évidemment c'est vraiment pour un jeu Paradox, c'est quand même assez c'est vraiment beaucoup. Avec 2020 ça fera 6 ans, puisqu'à mon avis il sortira pas avant la mi-2020, d'après les premiers retours. Donc un jeu qui est vraiment aussi attendu au tournant par les amateurs de stratégie tactique.
Et moi, PC, Xbox.
Exact. Alors ouais, Xbox Game Pass, alors c'est
le Xbox Game Pass,
ouais,
PC.
Xbox Game Pass PC, ouais.
Ah oui, exact. C'est trompeur, je trouve,
ouais,
mais bon.
Oui, je suis d'accord.
Ça
avec
fait
toi.
Bizarre.
Mais c'est un jeu vraiment pur en PC, et c'est le jeu que j'attends le plus, en tout cas moi personnellement, en 2020.
Ouais. Crusader 3.
Crusader Kings 3, exactement.
Kings 3, pardon.
On a
Baldur's Gate 3, évidemment.
Baldur's Gate 3, alors ça a été annoncé l'année dernière lors de l'E3. Et évidemment, c'est un jeu qui est énormément attendu, puisque Baldur's Gate, c'est une saga qui fait parler d'elle depuis très longtemps sur PC. Mmh. Ça fait partie de l'âge d'or du RPG PC, RPG old school. Et évidemment, quand ce jeu a été annoncé, alors il y a eu des rumeurs un peu avant l'annonce, évidemment, mais ça a quand même été annoncé un peu de nulle part, puisque finalement, on s'y attendait pas forcément tant que ça.
C'était pendant la conférence Stadia.
La conférence Stadia, ouais, c'est ça.
C'était pas un truc Stadia, hein.
Ouais, Stadia.
Tout à fait.
Et du coup, bah, évidemment, c'est un jeu qui va être très attendu. Est-ce que ça va respecter le côté old school tel qu'il était à l'origine, ou est-ce qu'ils vont vraiment essayer de rentrer dans la modernité et rentrer dans quelque chose qui ressemble plus à du Divinity 2, à voir ce qu'ils vont faire, s'ils vont vraiment changer le gameplay, etc. En tout cas, c'est un jeu évidemment qui est très très attendu. Un autre jeu qu'on vous parle quasiment toutes les semaines sur Gameblog, c'est Flight Simulator, puisque
ça,
évidemment. On est beaucoup à la rédac à l'attente. Pouffy derrière les...
On n'a pas tous les PC qu'il faut pour
c'est ça, ouais, bah, alors, attention, effectivement le jeu est somptueux. D'ailleurs, ils ont Nvidia a dévoilé une vidéo la semaine dernière
dans la neige notamment,
exactement,
c'est ça.
Dans la neige, et une autre vidéo aussi sur les possibilités techniques avec le RTX, etc. C'est vraiment mais somptueux. Mais il faut savoir qu'il faudra pas forcément une configuration si énorme que ça, puisque comme on le disait, la moitié même plus que la moitié du jeu est en fait en streaming. On va dire que ça repompe ce qui est disponible sur les serveurs Microsoft,
la réalité,
grâce aux maps de Google Maps, en fait. Donc en gros,
c'est logique.
Il y aura toute une partie du jeu qui sera en fait qui sera entre guillemets streamée. Donc du coup, ce sera tout ça en
donc
moins
pas dans
que...
le PC, mais
bah voilà, exactement. Alors t'auras plusieurs choix.
C'est cohérent, hein.
Ouais, t'auras plusieurs choix. T'auras soit un mode offline où tu devras télécharger les assets du jeu,
ouais,
qui sont pas forcément aussi fins, qui sera disponible en mode en ligne. Par contre, en mode en ligne, t'auras accès à un monde, au monde dans son intégralité. Et là, t'auras évidemment les définitions à leur maximum, le moindre arbre qu'ils ont annoncé. Je sais plus, un trillion d'arbres dans le
sur
jeu,
leur
sur leur map. Enfin, c'est
intéressant.
Ouais.
Un trillion d'arbres en Australie.
Ouais, alors là, oui,
il va falloir replanter.
Et évidemment, le mode de jeu qui est vraiment le plus impressionnant, pareil, qui est en accord avec toutes les technologies Microsoft, c'est d'avoir le temps météorologique en temps réel.
En temps réel, mais justement, c'est la question que je vais te poser. Est-ce qu'on aura quand on
exactement
jouera,
bah, en fait,
ligne,
par exemple,
temps
si,
réel,
si tu, je sais pas, t'es au-dessus de Bastia, je sais pas, le 6 juillet 2012, enfin 2012,
ah, je me rappelle,
2020, ouais. Pardonnez-moi, 2020, et bien il fera la température exacte qu'il fait au moment où tu joueras, en fait, à un temps X.
Ça, c'est génial.
Et ça, c'est quand même assez impressionnant. Ce sera du jamais vu, quoi. Et pareil pour les nuages. Si par exemple tu cherches ta maison et que pendant que tu joues et que tu as des précipitations au-dessus de ta maison, bah tu vas les voir aussi dans le jeu. Donc c'est quand même un truc qui est quand même assez fou. Et le jeu va encore plus loin, c'est que quand on survole l'Afrique ou même des lieux naturels, il y aura des animaux. Et ça, c'est vraiment une grosse nouveauté dans
pour
dans
le coup qui reste d'animaux, hein, tu veux
ouais,
dire.
Ouais, il y en a faut pas être si dramatique que ça, il en reste quand même pas mal. Mais
ouais, surtout en Australie, ouais, il en reste.
Oui,
pas.
En Australie,
il y en a un tiers qui ont disparu, mais c'est pas grave.
Mais non, je parlais dans l'intégralité sur la planète. Vous voyez aussi évidemment les vues topo, enfin satellites.
Non,
satellites,
mais c'est
vraiment.
C'est n'importe quoi ce jeu.
C'est assez indécent. Il y a, regarde, je sais pas combien d'avions qui sont présentés. Fidèlement représentés, le cockpit, la carlingue, enfin tout est présenté, tout est pris en compte. En plus de la météo, il y a aussi la vitesse des vents qui sera prise en compte. Et vous inquiétez pas, vous aurez aussi des modes pour simplifier tout ça, puisque si vous êtes vraiment un gros hardcore gamer et que vous savez piloter dans la vraie vie, vous aurez forcément joué dans les conditions le
hyper
plus
réaliste
possible. Mais si vous voulez juste simplement vous promener, comme moi ça sera sûrement le cas, me détendre, etc., vous aurez un mode un peu plus simple, simplifié,
entre guillemets, arcade,
oui, un peu plus arcade, qui sera accessible pour le plus grand nombre. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Flight Sim. Il y a aussi évidemment Half Life Alyx, on l'a un peu survolé tout à l'heure, qui est vraiment le gros retour de la saga Half-Life, qui est un jeu purement PC, mais aussi évidemment un jeu purement VR, puisque il est censé sortir sur Steam VR et sur, si je dis pas de bêtises, sur HTC, compatible HTC Vive,
HTC Oculus et Valve Index, hein.
Surtout.
Et donc évidemment ça va être une des grosses claques, même si évidemment il y a quand même des gens qui ont un peu gueulé, dire on aurait bien aimé quand même Half-Life 3.
Voilà, bah, c'est Half-Life 3, c'est pas grave.
Ouais, mais c'est pas vraiment Half-Life 3 non plus.
Oui, parce que t'as pas l'histoire.
Mais voilà.
Mais bon,
le problème, c'est que c'est réservé aux gens qui ont un VR. Donc, ça, pour l'instant, c'est ça le problème en fait. Moi, ça me fait rêver, mais comme j'ai pas de casque VR et que pour l'instant, j'ai du mal à supporter la VR, un point de vue, enfin au niveau des yeux, etc., j'attends de voir ce que ça va donner.
Et je pense que ça va faire partie des jeux qui vont faire acheter des VR.
Ouais, clairement.
Et les premiers retours précisent bien que le jeu est vraiment pensé
pour la VR. Ouais.
C'est logique. Tout a été pensé pour qu'il tire parti toutes les fonctionnalités, la précision des doigts, etc., que tu ne retrouves pas forcément sur les autres casques du marché.
Tout à fait.
Mais en plus de ça, voilà, c'est quand même une licence qui s'est stoppée, on va dire, pendant 10 ans.
C'est quand même précis.
Un peu plus de 10 ans, c'est quand même assez incroyable qu'une licence comme ça revienne.
Tout d'un coup.
Et surtout, tout d'un coup, puisqu'on personne n'y s'y attendait.
Ah bah oui, c'était le cadeau de fin d'année.
C'est vraiment le truc qui est sorti de nulle part. Et honnêtement, techniquement, artistiquement, ça a l'air vraiment de tuer. Et ça sera, il y aura sûrement, on aura droit, comme tu disais, peut-être des bundles, etc., qui permettront d'avoir aussi des casques réalité virtuelle, peut-être à un prix un peu moins élevé que ce que c'est actuellement.
Ouais.
Toujours dans les sorties, gros sorties PC, on a Mountain Blade 2 qui, pareil, alors lui, il a eu 6 ou 7 ans de développement. Mountain Blade, c'est un des jeux qui était le plus joué sur PC à l'époque. Donc forcément, l'épisode 2, il est très attendu. Alors pour situer, c'est un jeu vraiment stratégie en même temps.
Tu joues les 1 et contre, je sais pas quoi.
Stratégie en même temps, TPS.
On participe à des batailles entre
des
armées médiévales différentes.
En fait, tu joues dans spécifiquement, tu joues dans une partie sur une map style RTS classique.
Donc ça reste stratégique.
Une map stratégique style wargame. Et une fois qu'une bataille se déclenche dans la partie de la map wargame, tu passes en vue
3D,
TPS et tu diriges toi-même ton dirigeant en fait. Et tu diriges tes armées directement en jeu. Donc c'est vraiment plutôt pas mal. Moi, j'y jouais, ça fait 3 ans que j'y joue à la Gamescom.
Ah ouais.
C'est toujours chaque année de plus en plus intéressant. Alors ça sera pas une claque technique hein, parce que voilà, le jeu il accuse de l'âge, parce que 6 ans de développement forcément ça compte, et puis le c'est pas non plus un énorme studio, mais en un point de vue gameplay en tout cas ça promet de tuer. On a aussi Empire of Sin qui avait été étrangement annoncé lors d'un event Nintendo, une zone directe de l'E3 2019, qui est le prochain jeu de la Romero Family, puisque c'est la femme de Romero qui est derrière ce jeu
de son prénom.
Ouais, exactement. Qui elle aussi, comme son mari, développe des jeux et qui a annoncé ça. Et vraiment, c'est vraiment un jeu qui a l'air somptueux. C'est Paradox Interactive, encore une fois, qui est pas cette fois à l'édition mais au développement, et c'est l'inverse, qui est pas au développement mais à l'édition.
Ça fait penser à Mafia tout de suite.
Exactement, ouais. Alors ça se passera pendant la prohibition évidemment, et il faudra en fait gérer son cartel. Il y a Al Capone évidemment. Il faudra gérer donc son bandit, enfin
son business,
son business, jusqu'à se faire grandir. Il y a des clins d'œil à Peaky Blinder, etc. Enfin, comment s'appelle déjà son prénom, c'est quoi?
À qui?
À Romero.
C'est John.
Non,
sa femme. Ah, c'est Brenda.
Voilà, putain. Brenda Romero avait dit
c'est quoi son prénom à Romero?
Dans une interview que effectivement il y avait d'inspiration sur tous ces films-là et sur aussi des séries comme Peaky Blinder qui se passe aussi à cette époque-là, même si ça se passe en Angleterre. Et là, ça se passe aux États-Unis, mais il y a quand même des clins d'œil. Et enfin, Humankind, que j'ai pu voir à la Gamescom 2019, qui est aussi une des grosses nouveautés du studio français Amplitude, qui est censé être un peu un Civilization-like et qui est, ma foi, dans ce qui est annoncé, il a de quoi en tout cas de remplacer Civilization dans son gameplay, dans son design. C'est vraiment vraiment très beau.
Ils sont grands les chevaux.
Alors ça, parce que c'est sous forme de pions.
Oui, je mets tout.
Mais c'est un jeu qui a l'air très complet, très intéressant et surtout. Ça
c'est
bien.
C'est un pur wargame, ça.
Ouais, ça c'est un. Alors plus qu'un wargame, c'est un 4X encore.
4X,
ouais,
c'est ça, voilà.
C'est vraiment le 4X pur et dur et c'est le seul jeu qui actuellement pourrait faire de l'ombre à Civilization puisque finalement ils sont pas si nombreux que ça sur le milieu, sur l'échiquier quoi. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le PC.
Il y a quand même beaucoup de choses hein, entre la technique et puis les gros jeux qui vont arriver. Après, c'est vrai qu'ils sont plus typés PC, mais pas tous. Hein.
Bah, en plus, après, évidemment.
Parce que t'as des jeux consoles qui vont arriver sur PC
évidemment,
aussi.
À part les exclus finalement PS5, tous les jeux qui sortiront sur Xbox sortiront aussi sur PC.
Exactement.
Et la plupart des jeux PlayStation aussi. Donc voilà.
Par contre, il va falloir faire quelques économies pour choper le RTX. Un écran 5K.
Ouais. Ça c'est fait, c'est bon. Ça ça y est, c'est
49 pouces.
T'as pas fini de payer, si
ça c'est évacué.
Hein.
Oui, il me reste 3 mois encore.
Voilà.
Ça va.
Après, il faudra changer le RTX, etc.
Ah, bah après, faut changer le
processeur.
Bah oui, je change le PC après.
Putain.
Ça, je l'ai fait. Je le fais tous les 4-5 ans.
C'est
pas. Bah oui.
Ça va faire plus cher que. Moi, je me souviens, mon premier PC, je l'avais gardé genre 10 ans, je crois.
Bah bravo.
Mais après, à la fin, c'était une merde absolue. Hein. Putain.
Ah bah j'en suis à peu près là avec le mien.
C'est vrai.
Ouais. Team Windows 7.
Ah oui.
Plus de mise à jour. Il est en train de crever. Enfin bon, voilà.
Ouais. Effectivement.
C'est la
bon, bah parfait, hein, voilà sur ce qu'on pouvait dire sur le PC. Effectivement, il y aura beaucoup de choses à voir et ça va être une grosse année encore de ce côté-là. On va finir en fait avec les services, si vous le voulez bien, mesdames et mesdames.
Les services
on va y aller un peu rapidos hein, parce que on va pas s'étaler mille fois. Et Google Stadia, on en a parlé des jours et des cents. Des mille et des cents.
Ça dépend. Est-ce que tu penses que ça va décoller?
Est-ce que ça va décoller?
Toi.
Bah là, Stadia.
Parce que toi, je sais que t'adores Google, t'adores Phil Harrison. vénères Jade Raymond.
Jade Raymond.
Voilà, donc.
Phil Harrison, et puis j'aime bien aussi. Je veux rien contre eux, très honnêtement. Mais moi, Google Stadia, j'ai un petit peu de réticence, hein, parce qu'ils sont pas très très bien partis, je trouve. Ce qu'ils ont voulu faire, enfin si on comprend ce qu'ils ont voulu faire, mais est-ce que ça a été bien marketé, bien montré, est-ce que c'est super fiable, est-ce que techno tient la route,
on va pas se mentir, quand une grosse boîte comme ça annonce pas des chiffres de vente ou des le nombre de clients,
le nombre d'abonnés, etc.,
c'est mal parti.
Est-ce que ça a été lancé
en novembre, même s'ils remettaient tout d'aplomb et qu'on finissait par avoir toutes les promesses de la conférence dont on parlait avec Harrison, finalement le mal est fait. Et est-ce qu'on en parlera autant que du lancement complètement foiré de Stadia? Je ne sais pas.
Ouais. Mais après, est-ce qu'ils avaient le choix de le lancer plus tard? Non, parce qu'on sait que cette fin d'année 2020 il y aura PS5 et Xbox.
Mais du coup, c'est
à la limite, ils avaient peut-être pas le choix.
C'est dur de se refaire quand tu pars comme ça. Quelle que soit ta bonne volonté derrière, je pense que dans la tête des gens, t'as quand même loupé ton départ.
La peinture est un peu écaillée là.
Ouais.
C'est un peu.
Enfin, on l'a vu chez tout un tas de constructeurs avec les dernières générations de consoles. C'est difficile de se refaire quand tu loupes ton lancement à ce moment-là.
Tout à fait. Après, c'est aussi les premiers. Non, c'est pas les premiers, mais le premier gros à se lancer sur ce créneau-là, donc ils vont essuyer les plâtres. Et
après, ça peut être un bon indice. Si Google n'arrive pas à faire les choses correctement à ce niveau-là, c'est peut-être qu'on est encore un peu tôt finalement au niveau technologique.
Un peu comme la VR hein, qui s'est lancée il y a quelques années, et c'était pas terrible.
Vers le streaming,
est-ce que c'est
véritablement l'avenir, ou est-ce que c'est l'avenir du jeu vidéo, mais dans 5 à 10 ans? C'était l'avis de Furukawa d'ailleurs, le PDG de Nintendo, qui, comme d'habitude, Nintendo qui a toujours une position un peu attentiste sur les nouvelles technologies.
Exactement, ils y vont pas à la hussarde.
Ça sera peut-être effectivement quelque chose de commun d'ici à 10 ans. Nous,
mais
pour l'instant, on surveille ça d'un coin de.
Mais même Microsoft hein, commence à dire maintenant, nous, le jeu en streaming ou en. Comment on appelle ça?
Cloud gaming,
voilà. Cloud gaming, pas mal ça comme pseudo.
Cloud gaming.
Bah oui, ça peut se passer nouveau ça.
Non, je rigole. Bon, ouais. Bref. Même Microsoft disait que même la prochaine génération, ils n'étaient pas sûrs qu'on soit dans le cloud gaming et qu'il y aurait sûrement d'autres machines.
C'est un gouffre énergétique aussi. Donc,
voilà, c'est
plus,
ça, exactement.
Ça, c'est un peu...
Bah, ils ont tenu à rappeler qu'ils auraient
que d'ici là, on ait changé
encore des
trucs,
lecteurs physiques. Et de toute façon, pour Microsoft, c'est moins dommageable parce qu'il y aura toujours les consoles et le Project xCloud
qui
coexiste, on va dire, qui fait pas forcément d'ombre. C'est juste une diversification de leur offre. Au final.
Mais on sait que le projet xCloud, on n'en sait rien, il n'a pas été lancé, mais
Il est toujours en phase de bêta.
Qui devrait être ultra costaud quoi, par rapport à ce que propose Stadia.
Bah, il y a déjà deux fois plus de jeux que ce que propose Stadia
voilà,
là maintenant.
Voilà, regarde, Karim Choudhry.
Et que bah, chaque fois qu'il y a des essais qui sont possibles, que ce soit à l'E3, à la Gamescom ou au XO19, toutes les personnes qui essayent se rendent compte que.
C'est déjà prêt,
les promesses, elles sont tenues en termes techniques.
On a l'impression effectivement que leur techno est déjà prête, quoi qu'il arrive, même s'ils sont en bêta. Mais qu'ils attendent vraiment le bon moment pour lancer le truc en disant regardez vous avez la Xbox série X ou Z ou machin et en plus à côté vous avez ça et
bah, surtout qu'ils peuvent
catalogue
et ça y est on tue le game quoi.
Ouais, le catalogue est prêt, ils peuvent faire ça quand ils veulent parce que c'est compatible avec tous les appareils, peut-être pas encore avec les appareils Apple mais ils y travaillent très très fort si je me rappelle bien. Et ben bah, voilà, le projet xCloud normalement quand il sera lancé au moins lui ça il devrait déjà être sur les rails quoi.
Nickel,
il sera pas en train de rouler à côté sur la terre contrairement à Stadia.
Bah, ils auront fini leur phase de bêta.
Exactement. Ou c'est Google, ça, ils ont fait les choses dans l'ordre.
Ce qu'a pas fait
quoi.
Google finalement.
Et pourtant, on parle de Google. Hein.
Donc, oui, mais il l'avait même annoncé. Je crois que c'était une fois de plus, désolé de lui taper dessus, mais Harrison qui disait que non, on va pas faire de bêta pour l'Europe. C'est bon, on a fait nos tests, on se lance et puis basta quoi. Et on voit ce que ça donne.
Ah oui.
À la lumière de tous ces événements-là, je pense que Microsoft se dit ok, le jour où on lance ce truc-là, il faut que tout soit bétonné, que tout fonctionne à merveille.
Ils peuvent pas se louper.
Et pour l'instant, effectivement, Plume le rappelait à juste titre, à chaque fois qu'on a pu mettre les mains dessus, c'était quand même super convaincant. Donc on est sur des bons rails.
Et en plus juste pour rebondir très rapidement sur Stadia, ce qui a fait très mal aussi, c'est qu'il y a des gros sites américains, plus que des sites, même des quotidiens. Il y a le New York Times et je sais plus si c'est New York Times qui a fait une review mais catastrophique du truc. Ou même le mec s'était pris en vidéo, c'est lui qui s'est pris en vidéo et qui disait tu sais avec le framerate,
avec l'input lag,
l'input lag dégueulasse. À mon avis, ça a vraiment pas arrangé les choses. Parce que quand t'as un énorme quotidien américain qui se penche dessus et qui dit ah regardez ça marche pas, en général c'est assez mauvais signe pour la suite quoi.
Tout à fait. Mais en tout cas, on va voir émerger sûrement cette année 2020 tout ce qui sera un peu jeu à la demande, etc.
Ouais, exactement.
Ça va continuer.
Ils vont s'implanter un petit peu plus dans les foyers à chaque fois, même si on aura toujours des consoles physiques qu'on adore avoir chez nous,
tu vois,
qui servent de radiateur. Et,
le Game Pass qui marche bien, le PlayStation Now, il y a de plus en plus de monde aussi. On voit la part du dématérialisé de manière générale qui.
Mais qui arrive progressivement, ça n'arrête pas arrivé d'un coup.
Mais
quoi.
Qui progresse très bien à chaque fois.
Mais qui progresse très bien.
Que quand tu regardes les résultats annuels de chacun des constructeurs, que ce soit Sony, Microsoft, Nintendo, la part du dématérialisé est de plus en plus grande.
Donc,
logiquement, en fait, le jeu à la demande, qui est quand même un système par abonnement, qui permet d'accéder à un catalogue qui est à chaque fois assez important, sauf chez Stadia. Et donc, du coup, bah, tu peux pas refuser, quoi. Là, t'as GTA 5 qui vient d'arriver sur le Game Pass. Le Game Pass Ultimate, en ce moment, c'est 1€ pour le premier mois et 2 mois offerts si tu t'abonnes.
C'est ce que j'allais dire. Je crois qu'il y a les 3 premiers mois à 1€.
Je veux dire, là, en 3 mois. GTA 5, tu te le finis. Ouais. Tu peux te faire quelques parties online quand même avec
pas
tes
moi,
potes.
Mais les autres, oui, sûrement.
Non, mais enfin, je veux dire, c'est.
Oui, si tu te lances dessus et que t'es. Voilà, t'es
et t'as
le temps,
penses que t'as des jeux aussi comme The Witcher 3 qui sont arrivés il y a pas très longtemps, que t'as des jeux qui arrivent Day One, des nouveaux jeux qui arrivent Day One en Game Pass aussi. Bah, l'offre, forcément, elle va devenir de plus en plus intéressante, surtout qu'elle est vraiment à chaque fois bien, bien agrémentée et que, bah, ouais, pour le prix où ça coûte, bah, t'es obligé de dire que si t'es pas quelqu'un de très fortuné qui peut pas s'acheter un jeu à 70€ toutes les semaines, comme c'est notre cas à nous, on peut s'acheter des écrans à 900€ et des PC à 5000, mais,
si seulement.
Mais voilà, c'est une offre, enfin une possibilité qui est obligée de continuer à progresser et qui peut peut-être faire de l'ombre parfois aussi aux jeux. Tout simplement aux jeux eux-mêmes.
Au
quand on voit
alone,
la part,
ouais.
Quand on voit que le free-to-play l'année dernière, est-ce qu'il rapporte le plus justement côté numérique, et que c'est Fortnite qui a engrangé 1,8 milliard de dollars.
Tout mon argent est passé dedans.
Oui, au moins, oui.
Combien d'écrans t'auras pu t'acheter?
Je sais pas, plein.
Donc forcément, oui, le jeu à la demande, c'est les services abonnements. Alors peut-être pas les trucs genre Uplay Plus ou Uplay Boom ou autre.
Uplay Boom.
mais ces trucs, enfin celui-là qui a pas l'air d'être très très efficace. Mais
si tout le monde se lance, ça peut pas fonctionner partout.
Voilà.
Mais ce qui est appréciable, je trouve, c'est que c'est justement une offre de complément. C'est
exactement.
Une possibilité supplémentaire. Microsoft avait plutôt l'habitude d'essayer d'implanter bon gré mal gré ces évolutions technologiques. Là, c'est fait avec intelligence. Justement, c'est regardez
c'est
ce que vous
amour.
Pouvez faire. Vous avez le choix. Après, si vous voulez continuer à acheter vos jeux, allez-y. Si vous voulez passer avec le Game Pass, voilà tous les avantages que ça vous procure. Et après, c'est les joueurs qui se positionnent. Je trouve ça plus intelligent quand même.
Tout à fait.
Et bien voilà, hein, je crois qu'on a fait à peu près le tour des attentes de 2020. Évidemment, on pourrait déviser pendant encore 3 heures, mais à vous de le faire. Du coup, dans les commentaires, dites-nous ce que vous en pensez, ce que vous attendez. Est-ce que vous allez passer au tout des maths cette année ou pas? Est-ce que vous allez acheter la PS5, la Xbox, les deux, la Switch Pro qui n'existera peut-être jamais? Et est-ce que vous allez acheter plein de casques de réalité virtuelle pour ne plus jamais sortir de chez vous?
Non, tu rigoles, mais je suis en train de me dire qu'il faut que je mette un max de thunes de côté là.
Exactement.
Ça va être tendu 2020.
Tant pis pour tes vacances.
Si tu veux, j'ai des écrans de PC maintenant à vendre. J'en ai deux.
Ah, c'est vrai ça. T'as plein de PC à monter, je crois aussi, la pièce d'à côté.
Ouais, c'est vrai ça. D'ailleurs, mon PC que tu dois monter là.
Bah vas-y, donne-moi.
Je peux jouer toute la journée.
Donne-moi deux jours pour les monter.
Bah vas-y. Bon. T'as aujourd'hui et demain.
Voilà. Ok, d'accord. Merci. Salut.
Voilà, voilà, bah écoutez, voilà comment se termine ce podcast 517, si je dis pas de bêtises, quant à Poufy qui a bien enregistré, hein, ça a bien marché, hein, ok, espérons. Et voilà, bah écoutez, nous on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, n'hésitez pas à parler, à faire sonner la cloche et à vous abonner, bien sûr. Et, voilà.
Et puis surtout, nous dire quels sont les jeux que vous attendez le plus cette année.
Exactement, voilà, en commentaire, n'hésitez pas.
Et puis à mettre fin à la grève aussi à un moment.
Ouais, donc normalement, podcast la semaine prochaine, si tout va bien. Même si là, visiblement, il y a un regain de grévistes
jusqu'à 11,
coup,
c'est sûr.
Après les vacances, donc normalement, oui, ça devrait être bon. Mais on n'en est pas sûr à 100%.
Non, on verra toujours une solution.
On trouvera une solution. Plume va nous payer des Uber depuis chez nous. Il est plus à sa prêt. Voilà.
Ah bah non, ouais, c'est clair, dans mon découvert, je suis plus à sa prêt. Cofidis, ils vont kiffer, il n'y a pas de problème.
Tu connais Covadis?
Ouais.
Ok. Et bien voilà, on se dit à la semaine prochaine. Et d'ici là, jouez bien, portez-vous bien. Et encore une fois, bonne année.
Et bonne santé.
À vous et vos proches, bonne santé. Et bonne grève pour ceux qui font grève. Allez, salut, ciao, à la semaine prochaine.
Révolution Thérèse.
Wesh.